Moi, je précise, le seul luxe que je vous demande, c'est le silence. Voilà. Donc, pendant que je parle, voilà, vous écoutez, vous parlez pas entre vous, même pour prendre le sel, et mais après, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Donc, ce soir, nous reprenons, j'ai malheureusement été interrompu au printemps, on a une série sur l'apologétique, c'est-à-dire comment est-ce que la raison conforte le christianisme. On a donc fait deux conférences sur ce qu'était l'apologétique. Est-ce que Dieu peut se révéler? Et s'il se révèle, est-ce qu'on a des moyens de le savoir? Et puis ensuite, on a envisagé successivement tous les grands points. Est-ce que Jésus réalise les prophéties qui ont été faites sur lui dans l'Ancien Testament? Est-ce que les évangiles sont historiques? Est-ce que les miracles de Jésus prouvent quelque chose sur sa divinité? Et ensuite, on a terminé sur la doctrine catholique en montrant que son harmonie était confirmée, hein, les preuves qu'on avait découvertes dans les premières instructions. Alors maintenant, à la suite de la conférence, enfin, la projection du Facet Club en octobre sur le suaire, on aborde un point tout à fait clé dans le christianisme et dans la raison, au fond, qui est la résurrection du Christ. Donc je vous ai donné un petit résumé, comme je le fais d'habitude. Je pourrais sans doute pas vous dire tout ce qu'il y a dans le résumé. Enfin, ça vous permettra de le relire. Donc on va voir trois points. D'abord, le fait même de la résurrection. Ensuite, on essaiera de décrire de façon probable la façon dont elle a été vécue, enfin la suite probable des faits du matin de Pâques, du dimanche de Pâques. Et enfin, un troisième point, avec saint Thomas, on verra que saint Thomas, Jésus a vraiment prouvé qu'il était ressuscité par des signes évidents. Alors, d'abord, la résurrection glorieuse est le fondement du christianisme. Ça, c'est très très important. Vous le savez sans doute, mais c'est bon d'y revenir. Vous avez le résumé là. C'est bon d'y revenir, parce que c'est vraiment un point très central. Et en préparant cette conférence, j'étais content de retrouver ces grandes idées, que vraiment le centre de la prédication des apôtres, c'est la résurrection du Christ. Alors tout d'abord, Jésus l'a prédit. Oui, je vous avais dit un jour que, en apologétique, ben, dans la réflexion de la raison sur la foi, il y avait une chaîne extrêmement importante, qui était la chaîne prophétie, miracle, doctrine. On l'a vu d'ailleurs quand on a vu les prophéties qui prophétisaient le Christ comme Messie, on a vu les miracles qu'il faisait pour montrer qu'il accomplissait ses prophéties, et puis la doctrine dans laquelle il disait ce qu'il était et le sens qu'il donnait aux miracles qu'il faisait. Que ces miracles étaient faits précisément en appui de l'affirmation qu'il était le Fils de Dieu. Donc en fait, chacune des choses est très impressionnante, mais je crois que le plus impressionnant, c'est la conjonction des trois. La prophétie, le miracle et la doctrine. Eh bien, pour la résurrection, on a ces trois éléments. La résurrection a été prophétisée. Elle est apparue grâce au contact de Jésus ressuscité avec les témoins comme un miracle. Et il y a la doctrine. Les anges et Jésus lui-même ont affirmé que c'était bien la réalisation des prophéties et que c'était bien lui-même qui apparaissait. Donc vous avez trois éléments. Ça, c'est très important parce que vous voyez, l'enjeu du christianisme est assez considérable. Si le Christ est Dieu ou pas, si le christianisme est vrai ou pas, ça change ma vie et ça change le monde. Donc c'est normal qu'on prenne le temps d'approfondir la chose, hein. Vous avez un très beau passage chez Pascal, hein, là-dessus, contre les libertins qui s'en fichent. Bon, c'est quand même une question qui vaut la peine d'être approfondie, et si on l'approfondit, on s'aperçoit que c'est vraiment cette chaîne-là qui nous permet d'aller vers la bonne direction. Alors vous avez trois prédictions de la résurrection qui sont tout à fait explicites, qui sont rapportés par les synoptiques. Je vous ai mis la référence dans saint Matthieu, mais vous pouvez les trouver aussi dans saint Marc et saint Luc. Trois fois de suite, Jésus annonce d'une façon rythmée et mnémotechnique. Ça, c'est une chose importante. Vous vous rendez compte quand vous lisez les évangiles que vous avez des passages qui sont très balancés, hein. Si vous voyez les béatitudes, par exemple, l'évangile de la messe de la Toussaint, dans la forme dite extraordinaire, c'est les béatitudes. Donc c'est des formes très très balancées. Bienheureux ceux qui font ça, partiseront ça. Malheureux ceux qui font ça, etc. Et là, vous avez trois prédictions successives, progressives. À partir du moment où il y a des conflits avec les pharisiens, où un certain nombre de gens quittaient le Christ, Jésus provoque la confession de Césarée, de Pierre, où Pierre reconnaît qu'il est le fils de Dieu, et à ce moment-là, il commence à lui dire, bien qu'il soit le fils de Dieu, qu'il va mourir. Et il le présente toujours de la même façon. Alors je vous donne la formule la plus développée, la troisième, hein, parce qu'on ne peut pas tout dire. Hein. Voici que nous montons à Jérusalem, et le fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. À chaque fois, il y a la première idée, c'est que le Christ va être trahi, il va être livré. Alors habituellement, on indique qu'il va être livré aux scribes, aux pharisiens. Ensuite, dans les actes, et saint Paul et les actes insisteront plus sur le fait qu'en fait, ce sont les Romains qui ont exécuté la chose. Mais là, quand il leur parle, il parle à des juifs pieux, il dit, écoutez, voilà, ben, nos chefs vont me... Je vais être livré et trahi et livré aux scribes, aux pharisiens. Voilà, premier point. Ensuite, je vais être condamné à mort et je vais être tué. Deuxième point, c'est toujours la même chose. Le fils de l'homme va être livré, il va être tué, et le troisième jour, il va ressusciter. Alors le troisième jour, c'est une formule intéressante, qui est vraie littéralement, si vous voulez, mais qu'il faut faire très attention. Enfin, je m'en aperçois de plus en plus en étudiant ces trucs-là. Et il faut bien comprendre le genre littéraire. Hein. Quand vous lisez, si vous voulez, la chanson de Roland, ou je ne sais quoi, ou Racine, ou quelque chose, enfin, ou Houellebecq, enfin, vous, chacun a son style et sa façon de s'exprimer. Quoi. Enfin, vous ne lisez pas Houellebecq, mais ne le lisez pas, c'est de la merde, mais c'est bon. Chacun a, voilà. Donc, l'évangile, quand il dit le troisième jour, c'est une formule sémite pour dire rapidement. Hein. Et puis, le quatrième jour, théoriquement, d'après la médecine un petit peu rudimentaire, enfin, des sémites de l'époque, le quatrième jour, la corruption commençait, c'était fini, quoi. Bon, donc le troisième jour, c'était assez vite, il va ressusciter assez vite. Hein. Donc, voyez, le fils de l'homme va être livré, et alors même à la fin, c'est bien assez mouvant, parce que le Christ décrit, hein, il va être livré, donc livré, condamné à mort, bafoué, craché, flagellé, ça, et ils le tueront, ça c'est important. Il va être livré, on va le tuer, et le troisième jour, il va ressusciter. Et alors, ce qui est intéressant, ça c'est très important pour la bonne foi des apôtres, c'est que les apôtres ne marchent pas. Il y a même un moment donné où Saint-Pierre se fait remballer parce qu'il dit pas question, il est obnubilé par la pression, il dit non, ça ne doit pas arriver. Mais pour la résurrection, il ne marche pas plus. Et c'est assez étonnant, parce qu'il doit être assez content que le Christ ressuscite. Mais ils sont shootés, si vous voulez, par l'idée que le Messie va être... Bonsoir, vous avez un plan là, hein, donc prenez-le, comme ça il sera utile. Voilà. Donc ils sont complètement... Et parce que pour eux, le Messie, c'est quelqu'un qui est fort, vous voyez, c'est impossible. Vous parlez avec des musulmans... Pour eux, c'est impossible que Jésus ait été crucifié. C'est contraire aux attributs même de celui qui est béni par Dieu. Enfin, la baraka fait que vous êtes protégé. Bon. Donc, pour les juifs de cette époque, qu'est-ce que ça veut dire ils avaient lu Isaïe 53, mais ça ne leur parlait pas, donc ils n'admettaient pas. Donc la résurrection, alors d'autant plus qu'il faut faire très attention pour la résurrection. Il ressuscitera le troisième jour. Alors certains ont dit, ben voilà, les apôtres se sont imaginés qu'il a ressuscité parce que Jésus leur avait dit. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'en fait, la résurrection était admise par les pharisiens, c'est si vous voulez, par l'élite religieuse du peuple, mais refusée par les sadducéens et par toute une partie. Il y avait les minimistes et puis les gens plus spirituels. Et la croyance en la résurrection individuelle de chacun était soutenue par, bien sûr, depuis environ 150 ou 200 ans, depuis le livre des Maccabées, etc., soutenue par un certain nombre de personnes, mais n'était pas un bien commun, si vous voulez. Ce n'est pas un des articles du credo absolument indispensable de la synagogue, vous voyez. Donc, et en plus, on pensait que c'était la résurrection finale. Évidemment, comme nous, on résiste à la fin des temps, le Christ, on sait qu'il y aura la résurrection de tout le monde. Et les meilleurs des juifs croyaient ça. Ils avaient raison. Mais ils n'imaginaient pas un qui va ressusciter en anticipation. Voyez. Ça, c'est très très important. Hein. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a éclairé. Peut-être que vous trouvez que c'est pas important. Moi, je trouve que c'est une clé parce que les apôtres n'ont pas pu s'imaginer en disant bah, tiens, il y a un schéma que j'ai appris quand j'étais petit en me balançant à la synagogue parce qu'ils se balançaient pour apprendre leurs phrases par cœur. Et alors, il ressuscite à la résurrection du Messie le troisième jour, ce n'est pas dans le bouquin. Je vous ai déjà dit que Jésus est un grand artiste, c'est une idée de Bruce Berger, ça. Hein. Il aime bien dire Jésus est un artiste, parce que lui-même était un peu artiste. Hein. Et c'est un artiste cinématographique et aussi littéraire. Enfin bon. Et donc, c'est un artiste qui nous surprend. Un artiste nous surprend, mais avec une chose qui paraît nécessaire une fois qu'elle est devant nous. Enfin, pour moi, c'est l'idée de l'artiste, enfin, l'artiste classique. Quoi. Une fois qu'il a fait son truc, ah, on est. Ben, vous voyez, on dit ça ne peut pas être autrement, c'est magnifique. Mais c'est quand même une surprise. Et bien, tout l'Ancien Testament est réalisé dans le Christ, mais c'est une surprise. Parce qu'il combine la Torah, donc les prédictions prophétiques sur le serviteur souffrant, etc., et l'intériorité des prophètes et l'universalité des livres de la sagesse. Ce qu'aucun juif actuellement ne peut faire. Actuellement, nous avons un prêtre qui nous fait des sessions sur les livres de sagesse et qui est assez au courant des positions actuelles dans le judaïsme. Et justement, il nous parle d'un de ces livres-là. Et je lui demande si un livre de sagesse, si ce livre est très lu, est très. C'est précisément c'est le Qohelet, c'est l'Ecclésiaste. Hein. Est-ce qu'il est très lu, est-ce qu'il est très accepté par les juifs? Il dit ils sont obligés de l'accepter parce qu'il est dans leur canon, mais il les gêne. Ça les gêne. Oui. De même qu'il vous a dit pour Jérémie, la prédiction je mettrai la loi dans leur cœur, un cœur de chair, une loi qui soit une loi intérieure, ils savent que c'est là-dedans, mais certains disent mais qu'est-ce qu'on a à faire des prophètes, la Torah nous suffit. La Torah, c'est les cinq premiers livres. C'est le Pentateuque. Bon, donc il leur dit ça, le fils de l'homme va être livré, il va être tué, et il ajoute même, quand il sera tué, il ressuscitera, c'est bien précisé, il insiste sur sa mort. La mort du Christ est un article de foi. Hein. Bon. Et en plus, une vérité historique. Hein. Et il ressuscitera, le troisième jour. Bon. Donc ça a été prédit d'une façon explicite, mais les apôtres n'ont pas saisi, sur le coup. Eux ne saisirent rien de tout cela, nous dit Saint Luc. Cette parole leur demeurait cachée, ils ne comprenaient pas ce qu'il leur disait. Sur le coup, ils n'ont pas saisi. Après, ils ont refait le puzzle. Oui. Quand on arrive au terme de la réflexion, les éléments s'éclairent. C'est quand vous découvrez qu'une personne a fait telle ou telle chose, ça m'explique des tas d'attitudes dans sa vie que je ne comprenais pas. Vous voyez, ça c'est classique comme chose. C'est très réaliste en fait. C'est très vivant hein, la façon dont ça s'est passé. Bon, donc Jésus a prédit sa résurrection de façon directe, et puis de façon signifiée, imagée, dans le signe de Jonas, c'est le temps prédifié. Donc c'est une allusion un peu plus voilée, un peu plus polémique, j'allais dire, qui fait aux Juifs. Les Juifs demandent un signe, ils disent vous aurez le signe de Jonas. De même que Jonas a été 3 jours dans le ventre de la baleine. Vous savez, c'est ce prophète enfin qui ne voulait pas accomplir une mission. Bon, Dieu l'a sauvé d'une façon un peu particulière. Et donc, il a reconnu qu'il s'était trompé en faisant la mission de Dieu. Il a été jeté à la mer sur sa demande. D'ailleurs, il a été avalé par un gros poisson. Et il a prié Dieu. Au bout de 3 jours, il a été recraché du poison. Alors, peu importe l'historicité de la chose, moi, personnellement, je ne l'exclus pas totalement, ne serait-ce que pour embêter les modernistes. Mais bon, si c'est allégorique, ce qui est assez probable, c'est pas gênant. Hein. Et ça peut aussi être vrai, parce qu'on a découvert des pêcheurs bretons. Vous savez qu'à l'époque de la pêche, des grosses bébêtes, là. Et il y a un gars qu'on a récupéré, il avait passé 10 heures dans le ventre d'un des cachalots qui venait d'être... Et vivant. Bon, donc, pour ça, c'est pour rigoler. Pour vous aider à tenir le coup, j'entends Macron en deux. Enfin, peu importe, dans le style sémite, ça veut dire, il y a Jonas, qui signifie, qu'il va y avoir une mission qui va être faite aux gentils, hein, et les gentils vont recevoir, alors que les bons, même Jonas lui-même, sera furieux que les gentils se convertissent, enfin, c'est très, très amusant, enfin, ce signe de Jonas, si vous voulez, ça signifie que Jésus ne veut pas forcer, parce qu'il demandait un signe dans le ciel, il demandait un signe météoritique, quoi. Faire venir la comète de Halley au moment où c'est pas prévu ou je sais pas quoi. Enfin, c'est comme ça, un truc absolument spectaculaire, comme a fait Élie qui a fait descendre le feu du ciel. Là, Jésus n'a pas fait ça. Parce qu'il faut quand même que le royaume, si vous voulez, de Dieu arrive d'une façon qui soit pas fantasmagorique, quoi. Hein, c'est pas Walt Disney religieux à puissance 12, enfin, c'est pas du kitsch. Hein. Et si le royaume de Dieu arriverait de la façon dont les Juifs l'ont demandé, moi j'avoue, je sais pas si je serais chrétien. Hein, parce que je suis assez anticonformiste, donc ça me déplairait pas mal. Tous ces trucs, c'est pas un feu d'artifice pour se marrer, c'est pas du virtuel réalisé, c'est du réel beaucoup plus profond, donc il faut qu'on soit libre. Donc il y a suffisamment de lumière pour ceux qui veulent avancer, mais il y en a assez aussi pour laisser la liberté à ceux qui veulent refuser. Donc il y a le signe de Jonas, et puis le temple réédifié, c'est Jésus parle de lui-même, il dit si vous détruisez ce corps, il dit pas qu'il va détruire le temple, et le corps c'est lui, je le réédifie en 3 jours. Alors évidemment ça fait toute une polémique qui a ensuite mené sa condamnation. Mais il signifiait que le vrai temple en adoration, c'était lui. Ce qui est très important, parce que ça montre qu'on passe d'un lieu physique, le temple est le seul lieu où il y a un culte valide à Dieu, avec le sacrifice, à une adoration en esprit en vérité, qui est le corps du Christ, qui est partout présent dans les églises du monde entier. Bon. Donc, voilà, la résurrection est prédite, hein, de façon formelle, et ensuite, dans sa signification spirituelle. La résurrection du Christ fera que le corps du Christ spiritualisé sera le lieu de l'adoration. Voilà. Bon, alors ensuite il est vraiment mort. Alors ça c'est important, parce que certains ont dit oui, voilà, on dit qu'il est mort, mais en fait pas du tout, il était dans les pommes, enfin, etc. Bon. Alors là, il faut arrêter le délire. Hein, parce que... Bon, il y a une convergence, si vous voulez. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, les plus studieux d'entre vous ont eu la feuille quand on a dit les évangiles sont historiques. Donc les évangiles sont des textes qui ont toutes les garanties de ce qu'on appelle la foi historique. C'est qu'ils donnent une certitude probable sur les choses qui sont rapportées, certitude historique. Et je vous ai rappelé, enfin ceux qui étaient là savent que nous avons un manuscrit intégral du Nouveau Testament qui date de 300 ans de distance avec les faits, 30 ans pour les fragments les plus anciens, alors que les fragments les plus... La distance entre l'événement et le texte est de 800 ans pour Virgile, 1000 ans pour César, 1400 ans pour Tacite, 1500 ans pour Eschyle et 1800 ans pour Homère. Bon, et les gens admettent l'existence de ces personnages-là. Donc je recommence pas la conférence, mais les évangiles sont un texte qui doit être considéré par les historiens comme historique. Donc, si nous regardons ce que nous disent les évangiles, on a les quatre évangélistes qui disent il est mort. Il y a quatre types qui disent ça. C'est pas forcément quatre coyotes et à foie jaune, hein, comme dans le Lucky Luke. Hein. C'est les mecs qui disent ça, il y a un intello, il y a un publicain, enfin. Bon, un brave gars qui est Saint-Marc, un médecin, bah, oui, bon, pourquoi ces quatre-là vont dire. Les soldats ont brisé à coup de masse les jambes des condamnés qui s'affaissant ont asphyxié, mais quand ils ont vu que le Christ était mort, c'est formel, eh bien, ils ont fait le coup d'escrime légionnaire avec le coup du pilum qui transperce, enfin, de la façon expliquée par Saint-Jean. Bon, ça, c'était absolument visible, il y avait des témoins au pied de la croix. Et en plus, le centurion lui-même a vu qu'il était mort, puisqu'il est mort après avoir poussé un grand cri, ce qui est bizarre pour un type qui s'asphyxie. Donc le centurion a témoigné qu'il était mort. D'ailleurs, il l'a dit à Pilate. Bon. Ensuite, le centurion, le coup de lance. Alors essayer de survivre à un coup de lance, hein, porté selon les crimes légionnaires du côté opposé au bouclier. Donc le coup de lance, le bouclier porté par la main gauche, le coup de lance passe par là. Ben, faites-vous donner un coup de lance par votre meilleur ami, hein, qui est champion de France de truc, à cet endroit-là, entre on a calculé les côtes entre lesquelles ça passe, faites constater par un médecin qu'il en sort du sang et de l'eau, hein, et puis revenez me voir après, les gars. C'est comme disait Napoléon à la Révolière les peaux, ça marche notre religion? C'est un cinglé qui a fondé la théophilanthropie, je sais pas quoi. Alors elle lui dit non, sire, ça marche pas très bien. Ben, je vais vous donner un truc, hein, la Révolière. Faites-vous crucifier, ressuscitez dans 3 jours, et puis vous verrez. Non, mais ça, c'est une blague, mais c'est une blague qui est vraie. Les princes des prêtres et les pharisiens. Les princes des prêtres sont témoins de sa mort, hein, puisque justement, c'est leur victoire. Et ils n'ont pas contesté. D'ailleurs, dans les témoignages après, il n'y a pas de contestation de la synagogue par rapport à ça. Bon, Renan dit ceci, en exagérant un petit peu. Renan, c'est un breton, c'est la seule qualité qu'il a, d'ailleurs. Mais c'est un breton qui est un abominable libre-penseur, un ancien séminariste qui a écrit des bouquins qui ont fait perdre la foi à pas mal de gens. Et alors il écrit quand même ceci, la meilleure garantie que possède l'historien sur un point de cette nature, c'est la haine soupçonneuse des ennemis de Jésus. Les ennemis de Jésus qui voulaient sa mort n'auraient pas laissé l'affaire se terminer sans qu'il meure. Ils ont même fait en sorte qu'elle soit accélérée avant le vendredi à l'heure où on peut voir une étoile dans le ciel. Donc voilà, on a le témoignage des ennemis. Nous sommes souvenus que cet homme, etc. Oui. Donc la prédiction de Jésus, s'en souvenaient les pharisiens. La mère de Jésus et ses amis qui étaient proches de la croix, alors vous voyez une maman qui laisse son enfant palpitant, recouvert de 32 kilos de machin étouffant, parce qu'il avait 32 kilos de myrrhe d'aloès sur le corps, donc la respiration, parce que le corps respire aussi par partout. Donc imaginez avec un linge par-dessus la tête, des bandelettes, le linceul en plus. Et vous voyez la maman qui assiste à ça, non, pas de problème, cool, ça va. Mais quand même, il palpite un peu, là. Bon, donc ça va pas très bien. Bon, etc. Le peuple, quand 50 jours après, alors, on a les Français ont la mémoire courte, je sais pas si les Juifs avaient la mémoire courte, enfin, 50 jours après, Saint-Pierre va dire, vous l'avez tué. Il y a un texte, j'ai fait du copier-coller, parce qu'il y a des petits logiciels où vous avez tous les textes. Donc, il y a le texte tout à fait explicite sur des actes des apôtres, hein, où Saint-Pierre dit, voilà, ce Jésus, hein, Dieu l'a ressuscité, ce Jésus, nous en sommes tous témoins, ce Jésus que vous avez crucifié. Cet homme que vous avez bien connu, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous, vous l'avez vu faire des miracles, cet homme que vous avez livré, bon. Et quand il dit ça à 3000, à 5000 personnes, personne ne dit, objection, votre honneur, c'est pas vrai, il est pas mort, le gars. Ils étaient même sur certains d'entre eux, sur les 5000, il y en avait, disons, en fonction de la police ou du service ou des organisateurs, ça dépend, mais il y en avait 300 ou 500 qui étaient sur le Golgotha, quoi. Donc aller dire une connerie comme ça 50 jours après à 500 types dont la moitié sont des opposants, bah, le Libé du jour au lendemain fait un grand titre. Donc la gazette du temps dirait délire du chef de la secte, machin quoi. Puis il y aurait des traces parce qu'ils avaient leur service de pub aussi assez bien fait. Hein. La preuve quand Pilate les embêtait, Tibère le savait assez vite. Hein. Donc c'est beaucoup plus vivant qu'on ne pense. On dit oulala, oh la Palestine c'est loin, les rapports avec Rome. Vous savez, en 6 jours, ils y étaient, ou un peu plus peut-être, 6 jours. Hein. Ça, le téléphone arabe et le téléphone juif, ça fonctionne bien. Surtout qu'ils fonctionnaient avec les postes romaines. Hein. Et les postes romaines, c'était un truc absolument fabuleux. Bon, donc il y avait tout ça. Saint Paul l'a prêché comme un fait. Donc il est mort. Alors maintenant, est-ce qu'il a ressuscité? Alors là, on se situe au plan historique. Hein. On se situe au plan historique. Évidemment, nous, comme chrétiens, enfin, peut-être certains d'entre vous n'ont pas la foi, donc qui réfléchissent pour la... pour si elle est vraie, y adhérer, quoi. Mais enfin, ceux qui ont la foi savent que Jésus a ressuscité. Mais est-ce que l'historien peut dire qu'il est ressuscité? Ben oui. L'historien peut dire qu'il est ressuscité. Il y a un type qui est un prof à différentes facs, qui en a eu marre du délire des modernos et autres rationalistes, et qui a fait une petite étude purement historique. Quand on refuse de croire, qui se conclut par ceci. C'est un spécialiste de l'Empire romain, spécialiste du 1er, 2e, 3e siècle. Donc il connaît parfaitement le contexte archéologique et historique. Quand on refuse de croire à la résurrection de Jésus, ce n'est pas pour des motifs historiques. Pour ce dont elle est capable, l'histoire, tant s'en faut qu'elle en détourne, y porterait plutôt. Même elle y porte tout à fait, on va le voir. Donc Jésus est ressuscité. Alors comment pour nous le savoir? C'est-à-dire que cet homme-là, qui avait vécu 2 ans et demi avec les apôtres, donc il connaissait quand même un petit bout. Si vous faites un camp scout qui dure 2 ans et demi, vous connaissez les chefs à la fin, non? Enfin, c'est à peu près ça, ils étaient tout le temps ensemble. Hein. C'est pas simplement un café caté une fois par mois, enfin, quand on vient, etc., ou pas. Bon, c'est quand même plus suivi, hein. Donc le gars, vous finissez par le connaître. Hein. Ou je sais pas, vous travaillez dans un labo pendant 2 ans et demi avec un type, dans la même équipe de recherche, le gars, vous connaissez ses tics, s'il fume des boyards maïs ou des crevettes et ou je sais pas quoi, enfin, peut-être qu'on en fume plus aujourd'hui. Mais enfin, on peut plus fumer d'ailleurs maintenant, enfin bon. À l'époque, on pouvait fumer. Enfin, le gars, vous connaissez avec tout ce côté dans tout. Hein, vous connaissez bien, quand même. Et bien, donc, est-ce que c'est ce même type-là qui est revenu à la vie? Alors, une vie, on va voir, supérieure. Mais est-ce que vraiment, il a aussi revenu dans notre monde? Bon, les évangiles canoniques en témoignent. Or, ils ont une pleine autorité historique. Et quand ils en rapportent les faits, ce qui est très intéressant dans les évangiles canoniques, c'est que ils font pas du tout de fioriture. Hein. D'abord, ils rapportent pas le... Ils ne font pas, si vous voulez, un arrêt sur image sur l'instant de la résurrection. Ça, c'est très important, on y reviendra au prochain Café Caté. Les évangiles canoniques racontent le tombeau vide et les apparitions et les témoignages de Jésus. Mais ils ne filment pas la résurrection en direct, si l'heure est impossible. Et ils le font avec sobriété, contrairement aux évangiles apocryphes. Ils rapportent les conséquences d'un fait surprenant avec une extrême sobriété, c'est-à-dire, voilà, Jésus est là, il dit ça, puis il n'est plus là. Voilà. Et c'est très court. Alors que quand même, c'est un fait tout à fait capital. Le tombeau est vide, on voit qu'il est vide, bon, il raconte des histoires d'anges qui sont là, etc. Mais il n'y a pas un développement délirant, parce que dès qu'on veut être trop soi-disant pieux, explicatif, on disjoncte complètement. Si vous lisez l'évangile de Pierre, qui est un des apocryphes, les moins apocryphes, enfin, qui est quand même complètement délirant, mais c'est hallucinant, quoi. Jésus ressuscite sous les yeux des Romains et des Sanhédrites, encadrés par 2 anges, lesquels ont la tête qui touche le ciel, et qui le tiennent de chaque côté, mais la tête de Jésus dépasse le ciel. Enfin, vous voyez le truc, quoi. C'est bourré de trucs grotesques, quoi. Si vous voulez. Comme les gamins, quand ils font des dessins, il y a des erreurs énormes. Bon. Alors, là, il n'y a pas ça. Dans les évangiles, c'est extrêmement sobre. Hein. Or, ce fait est substantiel au message de la foi, et cohérent avec toute la doctrine, vous voyez. Si la résurrection n'a pas eu lieu, tous les évangiles sont faux. Or, on a prouvé que les évangiles n'avaient aucune raison d'être considérés comme faux. Ou alors, la guerre des Gaules de Jules César est fausse aussi. Bien qu'il ait pu un peu rembellir à tel ou tel truc, qui est le style romain de telle époque, en gros, on sait quand même que Vincent Vétorix a perdu, quoi. Le mec qui dit, ben non, il a gagné, en fait, c'est un coup des Italiens pour nous complexer, nous les Français, dans le marché commun, enfin, plus le marché commun aujourd'hui, dans l'Europe. Attendez, on va dire, le mec, il disjoncte, quoi. On sait qu'en gros, il y a une guerre des Gaules et c'est comme César qui a gagné, quoi. Alors les détails, évidemment, sont plus difficiles à rétablir. Ça, c'est très important. Hein. Parce que c'est une des clés, justement, des mauvaises contestations sur la résurrection. Donc un fait substantiel à la doctrine, cohérent avec toute la doctrine chrétienne, et ils ne cherchent pas à le défendre. Les apôtres ne commencent pas par dire, bah, vous savez, je vais vous prouver que Jésus est ressuscité, et si vous n'y croyez pas, machin, ceci, cela. Non, ils disent, le Seigneur est vraiment ressuscité. On va voir les premiers témoignages dans Saint Paul, dans les évangiles c'est pareil, il est ressuscité. Et c'est tellement reçu par tous les chrétiens à qui on parle, parce que ça part d'une prédication, hein, l'évangile c'est une prédication, que bah, tout le monde le sait que c'est prêché depuis l'an 33. 35, enfin quelques mois après la mort, la résurrection du Christ, ça a été prêché. Et on a des preuves historiques que ça a été prêché. Et sans fioriture. Alors ça, c'est très impressionnant, vous voyez. Parce que c'est un fait difficile, mais on ne cherche pas, si vous voulez, à enrober la pilule, quoi, du tout. Ils ne cherchent pas à le défendre, ils le présentent comme hors de toute controverse. Aucun chrétien, et même on va le voir, aucun ennemi. La réaction des Sanhédrites et la réaction même de Celse ou de Porphyre, c'est pas de contester les miracles du christianisme, c'est de leur attribuer une autre signification. Mais c'est pas de dire qu'ils n'ont pas eu lieu. La contestation de l'historicité des évangiles commence au XVIIIe siècle. Un peu au XVIe, mais surtout au XVIIIe. C'est quand même incroyable. Hein. Donc vous voyez que c'est un fait quand même massif. Quoi. C'est difficile d'imaginer que tous les hommes aient été fous jusqu'au moment où le grimaçant Voltaire est venu les rendre intelligents. Non, et les gens quand même étaient capables de lire des textes. Hein. En plus, ils étaient forts en langue, hein, quand vous voyez la virtuosité d'un Jérôme ou de. Il lisait le chaldéen, enfin la langue syriaque, la langue de nos frères qui viennent de se faire assassiner, là. Qui, bah, Jérôme le lisait en plus de l'hébreu et de. C'était des gens très forts. Et puis, ils étudiaient tout. Ils avaient les manuscrits, ils avaient des manuscrits qu'on a perdus. Et c'était des scientifiques comme on pouvait l'être à l'époque. Hein. C'est des gens très admirables. Hein. Donc, il ne faut pas dire qu'ils ont dit n'importe quoi. Alors, ils ne cherchent pas à harmoniser les contradictions apparentes. Oui. Si l'évangile a été fait par des faussaires, ben les faussaires sont en plus des demeurés mentaux. Quoi. Parce qu'ils ont tout raté. Quoi. Ça fait on les cherche. C'est tout, l'ensemble des faits qui sont rapportés sont massifs. Ils rapportent tous la même chose. Mais l'harmonisation des détails, on va le voir, est quand même extrêmement problématique. Extrêmement problématique. Et on n'y voit pas très clair. On a un fil probable. Mais ils ne cherchent pas à harmoniser. Oui. Et donc ça, contrairement à ce que pensent certains, ça plaide beaucoup plus en leur faveur. Oui. Ils ne sont pas mis d'accord pour rendre leur copie, ils n'ont pas copié, hein, ou ils n'ont pas fait du copier-coller sur Google pour dire, ah, on raconte tous le même truc, parce qu'attendez, le prof, maintenant, il y a des logiciels pour détecter si vous avez fait du copier-coller, paraît-il. Mais bon, c'est vrai que chacun voit la chose sous son angle, dit ce qui l'intéresse. Saint Paul rapporte une demi-douzaine d'apparitions, une dizaine, il ne les rapporte pas toutes, parce qu'il n'a pas besoin du témoignage des femmes qui n'auraient pas de poids à tel ou tel endroit, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est contradictoire. Mais il faut manquer complètement le sens de l'humain pour s'imaginer que les divergences apparentes sont un signe de non-authenticité. C'est plutôt l'absence de divergence qui est un signe de facticité. Oui. Ben, je disais peut-être l'instruction sur les évangiles, si vous avez une maman qui vient de mourir. Hein. Alors bon, c'est émouvant quand quelqu'un meurt. Hein. Moi je suis à l'âge où mes amis meurent. Bon, donc voilà. Certains de mes amis. Mais bon. Ben, si on parle d'eux, il y avait quatre personnes, quatre filles qui parlent de leur mère. Ben, elles font quatre toutes les deux un film différent. Mais c'est toute la même personne. Je dis les filles parce que les filles voient tout. Les garçons voient autre chose. Quoi. Mais les quatre garçons font aussi un film différent. Mais c'est la même personne. Oui. Ça, c'est la réalité. Voilà. Donc les évangiles témoignent de ce fait. Hein, il n'y a pas une entente pour mettre au point une version. Il y a un truc qui les a bousculés. Le premier jour de la Una Sabbatorum, le premier jour après le sabbat, au matin, qui est devenu notre dimanche, le tombeau était vide et le Christ s'est apparu. Voilà. Ça, c'est le fait massif. Ensuite, les apôtres. Alors ça, c'est très important. Les apôtres, à commencer par Saint Paul, le dernier d'entre eux, ont témoigné, dès le début de la résurrection, comme d'un truc qu'on savait par cœur, qui était raconté dans la qu'on appelle le kérigme. Le kérigme, c'est un mot grec qui fait savant, qui veut dire l'annonce primitive, si vous voulez, du noyau de la foi. Hein, Jésus de Nazareth est mort, il a été enseveli, on ajoute pour montrer qu'il est vraiment bien mort, avec 32 kilos de pâte à modeler au-dessus de lui, enfin pas de pâte à modeler, mais de mire de poisson qui l'aurait étouffé s'il n'était pas mort, hein, déjà, avec tout ce qu'il a eu, les 32 kilos là, de Joseph d'Arimathie. Bon. Donc il est mort, hein, il est ressuscité et il est apparu. Et ça, c'est tac, 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 les trois points, si vous voulez, et c'est passé dans les confessions, dans le symbole des apôtres. Alors, le texte le plus ancien, on va commencer par Saint-Pierre, hein, puisque je vous ai pris le texte de Saint-Pierre, 50 jours après, dans les actes des apôtres écrits par Saint-Luc, qui était aussi un scientifique, un médecin, il savait distinguer l'hématite rose d'une sueur ordinaire. Hein. La sueur de sang, c'est lui qui l'a décrite. C'était pas quand même un orang-outan tout à fait primitif et nul. Hein. Donc il a noté, hein, voilà, le discours de Saint-Pierre. Et Saint-Pierre dit direct aux 3000 types qu'il a en face de lui, qu'il connaît, dans certains c'est ses cousins, certains sont des Galiléens, d'autres viennent de la diaspora perse ou égyptienne, et il leur dit en face, ce Jésus que tout le monde voyait il y a 50 jours, qui faisait courir tout le monde, alors, ces miracles et tout. D'ailleurs, certains d'entre vous, vous qui êtes là au sixième rang, vous avez vu Lazare ressuscité, hein, dites pas le contraire. Là, il se cache, quoi. Il n'a peut-être pas dit ça, mais ça aurait été... Parce qu'ils sont gentils, les apôtres. Enfin, ils devaient être aussi assez musclés, enfin, c'est des méridionaux, donc ils devaient bien les méricoler. Enfin, non, ils ont pas fait ça. Enfin, moi, j'aurais peut-être fait, mais bon. Il y avait des gars qui ont vu la résurrection de Lazare qui étaient là. Donc, tout le monde considérait le rabbi Jésus comme un type qui faisait des miracles, puisque c'est pour ça qu'on l'a tué. Et qu'on voulait même tuer Lazare. Quand même assez fort de café. Donc ce Jésus-là, eh bien vous l'avez tué, il a ressuscité. Alors prédiction à l'appui, psaume 15, dans les Septante, bon, dans la version grecque, que dans l'autre version soi-disant authentique, ça prouve pas la résurrection. Et voilà, Pierre parle, le texte des Septante, c'est la Bible traduite par les sages juifs à Alexandrie. Bon, il s'est prédit, il a ressuscité. Et personne ne conteste qu'il est mort, ils étaient là à sa mort. Oui. Donc, et qu'il est ressuscité, pof. Voilà. Premier enseignement, c'est le kérit. Oui. Et alors, il y a un texte très intéressant qui est la première épître aux Corinthiens, qui est un texte qui date de à peu près de 55 après Jésus-Christ. Donc ça, on en est sûr maintenant, parce que des documents profanes nous font connecter la prédication de Saint-Pierre à Corinthe avec le proconsulat de Galion, frère de Sénèque, et donc on date à un an près le premier passage de Saint-Pierre à Corinthe. Donc c'est très intéressant, parce que l'histoire sainte a des connexions avec l'histoire profane très fortes. Récemment, on a trouvé une pierre qui donne le quatrième tétraque de Palestine, alors qu'on disait en rigolant, il n'y a pas eu de quatrième tétraque, on a la preuve qu'il y en a eu un quatrième. On a retrouvé la piscine à 5 portiques, ceux qui étaient en Terre Sainte savent qu'il y a une piscine à 5 portiques, que tous les rationalisés, il n'y a jamais eu 5 portiques dans les piscines. On l'a trouvé. Bon, donc ça cadre bien. Hein. Donc en 55 après Jésus-Christ, Saint-Pierre écrit aux Corinthiens, qu'il a visité quelques années avant, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Donc, environ 50 après Jésus-Christ, Jésus est allé à Corinthe, et il a, Saint-Paul plutôt, va à Corinthe, et il annonce un évangile. Donc le mot est déjà canonique, c'est-à-dire le noyau de la foi, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme. Et alors, quel est cet évangile? Ça, c'est très intéressant. Saint-Paul arrive en l'an 50, donc on est 17 ans ou 20 ans après l'événement, à peu près 20 ans, parce que Jésus, c'est sans doute l'an 31-32, là, pas sûr quoi. Alors, à ce moment-là, on est très près. Hein. Donc, il arrive à Corinthe. Qu'est-ce qu'il raconte? Je vous ai donc transmis en premier lieu, c'est le plus important, ce que j'avais moi-même reçu. Donc, Saint Paul n'est pas à raconter une invention. Hein, on a dit, Saint Paul a inventé le christianisme. Enfin, il l'a mis en forme, si vous voulez, mais il ne l'a pas inventé. Qu'il a reçu de qui? Ben, d'Ananie en 35, quand il a été baptisé à Damas, après sa conversion miraculeuse, Ananie lui a enseigné les rudiments de la foi. Et ensuite, il est monté 2 ans après. Après une retraite de 2 ans en Arabie, il monte, il voit Pierre et Jacques à Jérusalem. Pierre, donc la colonne apostolique, dont le témoignage est décisif pour la résurrection, et Jacques, qui rassure les Judéens, parce que Jacques est un pur juif, très observant, qui fait toutes les observances judaïques. Alors quand on veut mettre tout le monde d'accord, on dit Pierre et Jacques. Et parce que Jacques, on est sûr que les tradis du groupe vont être d'accord. Ceux qui disent qu'il faut absolument faire toutes les observances judaïques, ce n'était pas encore tranché. Mais non, Pierre et Jacques disent, ben oui, il lui raconte un truc, et ce truc-là, il va le raconter après aux Corinthiens. Je vous ai donc transmis en premier lieu ceci. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Donc vous voyez que les gens voient une forme de symbole. Et selon les Écritures, c'est aussi une forme, je dirais, didactique, qui est vraie, mais qui n'est pas forcément toujours un mot littéral. Si vous voulez, les Écritures, là, c'est le chapitre 53 d'Isaïe. Le serviteur souffrant qui porte nos péchés. Bon. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été mis au tombeau, ça c'est dans toutes les catéchèses. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alors il y a un passage d'Osée au chapitre 6 qui parle d'un troisième jour. Donc il a été, si vous voulez, adapté à la résurrection du Christ. Mais de toute façon, cette expression générale, c'est une résurrection rapide. Voilà. Si le Christ n'est pas ressuscité, vide est notre message et vide est notre foi. Donc, en l'an 55, Saint Paul rapporte aux Corinthiens qu'en l'an 50, il leur a dit un truc qu'il avait appris en 37 et en 35 comme étant le noyau de la foi. Et ça, personne ne met en doute l'authenticité la datation, ça flotte un peu, mais on est pratiquement d'accord, de la première aux Corinthiens. Sans compter que dans la première à Thessaloniciens, qui est le premier écrit du Nouveau Testament, saint Paul avait fait une allusion comme évidente, Jésus ressuscité. Et ce qu'on appelle, c'est d'autant plus probant qu'il ne démontre pas, qu'il n'insiste pas là-dessus. Il insiste dans celle aux Corinthiens parce qu'il veut montrer que la résurrection du Christ soutient la croyance à la résurrection générale. Parce que certains disaient non, le Christ est peut-être ressuscité, mais nous, qui sommes des Grecs, on ne peut pas admettre que les hommes vont ressusciter individuellement. Donc il l'inclut comme un élément fondamental d'un raisonnement. Donc c'était un fait possédé paisiblement, et il faut savoir que à l'époque, cette prédication n'a pas été contestée. Or, il y avait des gens vivants. Vous voyez qu'il y avait 20 ans après, les gens sont vivants quand même, non? Enfin, en gros, 30 ans, enfin, il y en a beaucoup qui sont vivants. Moi, j'ai des copains de terminale, de classe comme vous, qui sont morts. Maintenant, chacune de mes... C'est à mon âge, on compte un peu, mais je ne garde pas les photos de classe, mais des différentes périodes qu'on traverse, on dit, tiens, celui-là, il est mort à 25 ans, ou il s'est tué dans telle circonstance à 30 ans, etc. Mais enfin, il y a un certain nombre de survivants, hein. Dans l'annuaire des anciens, même à mon âge, et même 30 ans après, avec les antibiotiques, ça n'en finit plus. Alors, je vais vous dire un truc marrant, parce que, imaginez la mort de Peggy. Enfin, les plus cultivés d'entre vous ont entendu parler de Charles Peggy, donc je peux en parler. Pas comme un lieu théologique, voilà, c'est pas non plus à perdre de l'église, mais enfin, c'est un homme intéressant. Alors, imaginez, parce que, Peggy est mort, hein. Il est mort en septembre 14. Enfin, je crois que tout le monde admet que Peggy est mort en septembre 14. Bon. Mais ça vous faites bien de rigoler. Parce que c'est aussi absurde d'admettre ça que de refuser ça que de refuser la résurrection du Christ. Et Jean Guiton a fait un montage dans son livre sur Jésus où il met en scène des gens qui disent Peggy. Attendez, alors voilà ce qu'il raconte. Voilà. Au lendemain de l'événement, quelques lignes dans les journaux. Évidemment, c'était la guerre, ça pétait partout, mais Charles Peggy est mort, tel endroit. Il y avait plein de morts, hein. C'était la contre-offensive, près de la Marne, si je me souviens bien, donc ça mourait de partout. Hein. Et des deux côtés, il y avait 100 000 morts en quelques jours. Hein. Donc Peggy est mort, c'est ennuyeux, bon, voilà. Mais tout le monde, hop, c'est vite fait. Hein. Au lendemain de l'événement, quelques lignes dans les journaux, et seulement bien plus tard, sous la plume d'amis et d'admirateurs. Attendez, hein. Circonstance aggravante, les admirateurs. Des récits pleins de détails concrets. On a décrit un peu les préludes de la mort de Peggy, qu'il a mis des fleurs à la Sainte-Gerve la veille, etc. Bon, c'est assez émouvant, la mort de Peggy. Dira-t-on que Alesi, Tarot, nous donne seulement une amplification littéraire, en sorte qu'on doit s'en tenir exclusivement aux documents plus anciens. Vous savez, les quelques lignes dans le communiqué de l'armée qui sont passées dans le journal des échos, le journal officiel, je ne sais pas. Bon, alors, les faits que nous, les modernistes, ils entendaient, non, il faut se tenir vraiment seulement aux quelques attestations les plus anciennes. D'ailleurs, le plus piquant est ici qu'à l'encontre des récits détaillés qui ont suivi, donc les récits plus détaillés qui tenaient des camarades, qui ont raconté ce qui s'était passé. Mais il a fallu le temps de s'en occuper, de s'abréger les affaires, en rentrant, tout ça, puis après d'avoir le temps d'être à la retraite pour écrire les mémoires. C'est comme ça que ça se passe habituellement. Hein. Moi, je découvre des trucs que je n'ai pas vécu au moins directement, par amitié ou par famille, je les découvre 30 ou 40 ans après des détails que je n'ai jamais su. Pourtant, j'ai vécu les événements. Bon. Alors. L'attestation primitive se prêterait éminemment à être interprétée comme la mise en œuvre déjà imaginaire d'un schéma traditionnel. À des fins, alors voilà comment les modernistes peuvent, transposition, si vous voulez, voir la mort de Peggy. À des fins de propagande patriotique, on aurait transposé, dans le contexte de la guerre de 14, le schéma traditionnel du poète assassiné, Chénier, Brasillach et Lorca. L'imagination a été mise en branle par les vers de Peggy lui-même. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre, heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. Donc il a dit que c'était l'époque de la moisson, n'est-ce pas? Qui donnait approximativement la date à laquelle sa mort supposée devait être fixée. Et c'est incroyable, mais c'est exactement ça. Quoi. C'est, on dit, non, si ça a été écrit 30 ans après, c'est faux. Et ils sont malades, ces mecs. Je vais vous dire une autre passage. Mais ils sont vraiment malades. Hein. En lisant, je me dis, pourquoi on perd tant de temps? Heureusement, moi, ce n'est pas ma spécialité. Hein. Moi, théoriquement, je suis dans la christologie, la spiritualité et la métaphysique. Mais quand je mets dans l'exégèse, je me dis, j'admire mes collègues qui ne pètent pas les plombs en lisant les textes des modernistes. Hein. Enfin, les nouveaux verront que j'aime pas beaucoup les modernistes. Mais c'est comme ça, parce qu'ils ont arraché la foi du cœur de beaucoup de gens. Alors voilà, imaginez un type qui écrit, parce que aussi, tous les modernistes, ils disent, il y a un texte qui est là, il y a les évangiles. Mais attendez, il y a un texte. Bon. Mais il n'y a pas les événements décrits par le texte, quoi. Aucun historien ne fait ça, mais les modernistes, ils font ça. Il y a un texte qui dit, il y a une histoire qui s'est déroulée, Mais ils disent, il y a un texte, ah, il y a une histoire, on ne sait pas. Voilà. Exemple. Dans le monde où nous vivons tous, on n'hésite pas à dire, la première guerre mondiale a eu lieu en 14-18. Pas tout le monde dit ça, quoi. Enfin, moi, j'ai toujours vu des gens qui m'ont dit, il y a même un prof d'histoire, guerre mondiale en 14-18. Dans le monde des doctes en exégèse, on dirait, au cours de la troisième décennie du XXe siècle, on voit s'organiser des traditions relatives à une guerre mondiale qui aurait eu lieu quelques années plus tôt. Dans le monde de tout le monde, fermez les guillemets, et c'est exactement ça le moderno. Et il y a les textes de Saint Paul qui sont à 30 ans des événements, 20 ans des événements, et il dit, il y a un texte, mais il n'y a pas d'événement. Ils sont fous. Non, ils sont conscients. Dans le monde de tout le monde, la vie humaine se prolonge quelques dizaines d'années et les gens sont dotés de mémoire, quoi. Donc si vous avez trouvé des trucs faux 20 ans après, vous avez des problèmes. Dans le monde des exégètes, il y a aussi des êtres humains, mais la plupart se volatilisent aussitôt après les événements auxquels ils auraient pu assister. Si vous écrivez vos souvenirs 20 ans après, ben vous êtes obligé de vous appuyer sur des récits primitifs, d'après eux. Les survivants sont frappés d'amnésie, en sorte qu'ils se mettent à écrire sur ces événements. On ne peut que s'interroger sur ce qu'ils ont la chance d'avoir recueilli d'une douteuse tradition primitive. Bon, je ferme le banc pour les modernistes, parce que ça ne marche pas leur truc. Hein. C'est quand même intéressant, mais beaucoup de gens fonctionnent encore sur ce schéma-là. Il y a un texte, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, on ne sait pas. Et au fond, je crois que le problème de la résurrection du Christ, c'est beaucoup un problème philosophique. Quoi. Si on n'admet pas que notre intelligence atteint le réel, notre intelligence est faite pour la vérité, et que les hommes, dans un certain domaine, atteignent la vérité, ben évidemment, on n'admettant pas non plus la résurrection. C'est une de ces vérités centrales. Bon, donc ensuite, la définition de l'apôtre, c'est que on a vu la résurrection. Enfin, pas la résurrection, mais le Christ glorieux. Donc ça, c'est les témoignages. Définition de l'apôtre. Lorsque Judas donc, a été pendre, quand les apôtres ont eu le temps de se remettre un peu entre eux, il faut maintenir le chiffre parfait de 12. Donc Saint-Pierre fait un grand discours. Il explique bon, que Judas a réalisé... est allé trahir, etc. De telle sorte qu'ont été accomplies les prophéties, c'est comme ça qu'il faut dire, enfin, afin que, mais de telle sorte que les prophéties en sont réalisées. Et donc, il faut qu'il y ait élire quelqu'un. Mais qui va-t-on élire? Alors voilà ce que dit Saint-Pierre, pour l'élection de Matthias. Donc, acte des apôtres. Il faut donc que de ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous. Donc c'est des gens qui ont vu toute la vie publique. En commençant au baptême de Jean, jusqu'au jour où il nous fut enlevé, il y en ait un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. Donc vous voyez, l'apôtre c'est un témoin de la résurrection du Christ. Et Saint Paul dira, moi je suis apôtre parce que j'ai vu le Christ sur la route de Damas. Donc dans une circonstance assez particulière, mais il s'appuiera sur ce fait-là. Donc vous voyez, ça c'est un fait, et la conclusion que j'ai mise de ce paragraphe, le mystère, c'est de tirer du catéchisme de l'Église catholique, c'est que nous avons affaire à un événement historique. Le mystère de la résurrection du Christ est un événement réel qui a eu des manifestations historiquement constatées, comme l'atteste le Nouveau Testament. Devant ces témoignages, il est impossible d'interpréter la résurrection du Christ en dehors de l'ordre physique et de ne pas la reconnaître comme un fait historique. Alors c'est important parce que Jean-Paul II et Benoît XVI sont revenus là-dessus, à cause des conceptions minimistes ou déviantes, vous voyez, qui s'appuient sur un élément qu'on va mentionner en finissant cette instruction, et on reviendra le mois prochain là-dessus, sur le fait que la résurrection dépasse l'histoire. C'est aussi un mystère qui dépasse l'intelligence. Mais c'est d'abord un miracle et un fait constatable par les hommes. Et si ce n'est pas ça, eh bien, il y a une autocontradiction dans le témoignage de Dieu, ça ne marche pas. C'est ce que dit Saint Paul aux Corinthiens. Hein. Et si le Christ n'est pas ressuscité, toute la prédication est vaine. Vous voyez? Parce que le Christ est l'aboutissement de l'Ancien Testament, qui promet, qui est quand même une œuvre révélée par Dieu, l'Ancien Testament est révélé, qui promet une libération aux hommes. Si elle n'est pas arrivée dans le Christ, on est perdu. Ça c'est important, parce que les Juifs actuels sont assez gênés, enfin les Juifs qui refusent toujours le Christ, le judaïsme actuel, c'est que comment la réalisation des prophéties est-elle possible, puisqu'il n'y a plus de sacrifice dans le temple, le Messie, bon, soit ils l'attendent encore, soit c'est dans un temps spirituel, mais il y a un gros problème. La libération spirituelle de l'humanité promise par l'Ancien Testament n'est pas arrivée, et notre foi est vaine. Et tout ce qu'a dit Jésus, hein, toute sa prédication, ce qui apparaissait être des miracles, sa doctrine sublime et tout, était un beau rêve, mais lui, il a terminé, ses os pourrissent quelque part. S'il en est ainsi, il nous a trompés. La résurrection est quand même un miracle, et le plus grand des miracles, c'est le miracle maximum, et qui à lui seul suffirait, et qui doit arracher l'adhésion et le changement de cœur des apôtres. C'est là-dessus que insistent les auteurs aussi, vous voyez. Je garde ça pour la fin. On va faire un peu le film du jour de Pâques. Le dimanche, c'est un film qui est Madine le Père Lagrange, hein, de moi aussi un petit peu, mais j'ai repris la synopsis du Père Lagrange. C'est un truc, si vous trouvez le bouquin chez les bouquinistes, c'est tout à fait remarquable. Faites-vous offrir ça pour Noël ou je sais pas quoi. Vous avez, c'est présenté, les synoptiques sont présentés, vous voyez, chacun dans une colonne. Et en bas, quand il n'y en a qu'un seul, le texte, alors, il y a des notes assez importantes, le texte de Saint Jean, général à part, et c'est par bloc, si vous voulez, dans un ordre historique reconstitué par Lagrange, qui a quand même vécu là, qui a fondé l'école biblique de Jérusalem, perfectionné par son disciple Lavergne. C'est très très beau, hein. C'est simple, c'est vraiment très nourrissant pour votre lecture spirituelle, et donc je le suis dans les grandes lignes, avec quelques améliorations dues à ce qu'on a découvert depuis, avec les sœurs de Turin, ou quelques réflexions postérieures menées par d'autres chercheurs et synthétisées par Vittorio Messori, qui, vous savez, est un journaliste italien, agnostique converti, et qui consacre sa vie à l'apologétique. Il a un site, pour ceux qui parlent l'italien, qui est bien fait. C'est lui qui a interviewé le pape, il a fait plusieurs livres sur Jean-Paul II et Benoît XVI. Donc c'est un homme intéressant parce qu'il vient vraiment de l'extérieur, quoi. Et alors il a écrit donc un livre sur la passion, un livre sur la résurrection. Et son premier livre, c'est le livre qui est la conclusion de sa conversion, qui s'appelle Hypothèse sur Jésus, et qui garde reste d'actualité. Si vous le trouvez, je crois que ça vaut la peine, c'est Hypothèse sur Jésus. Il a mis 10 ans à le faire. Et partant de l'agnosticisme, et de l'étude historique de l'Écriture. Alors, la suite probable des faits. Parce qu'il y a une grosse difficulté, c'est pas une objection, on dit, mais c'est difficile de synchroniser les trois synoptiques, Saint Jean. Voilà ce que rapporte Saint Luc dans les Actes, ce que rapporte Saint Paul, etc. Comment mettre tout ça ensemble? Alors c'est vrai qu'il y a une difficulté qui est, je dirais pas insurmontable, mais quand même considérable. Mais vous voyez, cette difficulté est une difficulté greffée sur le réel, vous voyez. C'est très important qu'on ne dise pas quelque chose est faux parce que c'est difficile. Ou alors la relativité générale et la mécanique nucléaire et puis la mécanique quantique, c'est faux. Et c'est pas faux. C'est difficile, c'est pas pareil. Et le réel, vous voyez, le réel est très riche. Oui, je m'aperçois en travaillant ces questions-là, hein, parce que bon, on part toujours d'un point de vue. Moi, mon point de vue, c'est l'être. Hein, j'ai fait une thèse là-dessus. Le Café Caté fête ses 10 ans, là, actuellement. On a fait un an d'interruption pour que je soutienne ma thèse ici, là, sur l'être. Quoi ça sert, c'est ça, une thèse sur l'être. Ben, rien, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile, dit Cyrano de Bergerac, pour les gens, la partie la plus cultivée de mon public. Mais en fait, ça sert quand même très lointainement. Et ça sert en particulier à la preuve de l'existence de Dieu. Mais alors, le point de vue de l'être, vous voyez, je suis frappé d'une chose, c'est que les gens diminuent le réel. Le réel, c'est ce qui rentre dans ma tête. Le réel, c'est ce que j'ai le temps de traiter, entre 6 SMS, une heure de chat sur le truc, etc. Et à ce moment-là, ah oui, tu vois, ben Christ, ah ben non, tu vois, moi j'ai un copain qui est bouddhiste, il est plus cool que toi, etc. C'est ça, pour le réel de la religion, c'est bon. C'est quand même un réel, ça c'est le réel de l'hédoniste moderne qui est assez débile, quoi. Mais le réel de Arouet, enfin de Voltaire ou des autres, des rationalistes, le réel de l'encyclopédie, il est quand même aussi pour le chagrin, quoi. Même le réel des scientifiques du 19e siècle, qui était avant la révolution quantique et avant la révolution biologique et avant la révolution relativiste, il est quand même restreint. Et je suis frappé que toujours ces gens-là échouent par manque de grandeur, vous voyez. L'homme est trop petit pour eux. Le réel est trop petit, le monde n'est pas beau. Le monde n'est pas grand, le monde c'est une source. Moi, quand j'étais jeune, je voulais être astrophysicien parce que je trouve que on n'en finit pas, quoi. On n'arrête pas, c'est toujours plus beau que ce qu'on a pu imaginer. Moi, j'ai arrêté l'astrophysique scientifique depuis un bon nombre d'années, mais quand j'ai le temps de regarder une revue de vulgarisation générale, c'est encore mieux, que c'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé, quoi. Voilà, et c'était beau ce que j'imaginais, quoi. Mais voilà, donc le réel, donc les gens réduisent les choses, quoi. Donc là, c'est minable, tout est merdique, tout est petit, tout est, si vous voulez, c'est du Sartre au niveau Houellebecq, quoi, enfin, au niveau Comte-Sponville, quoi. Du Sartre descendu au niveau du Comte-Sponville, quoi. C'est Sartre, c'est comme un type cultivé, je crois que Comte-Sponville doit l'être aussi, je dis une méchanceté sur lui, mais mettez-la entre guillemets, puis la mettez pas sur un site, mais voilà, mais c'est à peu près le niveau, quoi, c'est des trucs, attends. Non, mais non, le réel est beaucoup plus riche. Et justement, je suis frappé du fait que, enfin, je sais pas, même dans l'histoire, enfin, combien de fois on voit ça, quoi. Bruckberger, bon, Bruckberger est un dominicain un peu original, pas entièrement recommandé sur tous les plans, et qui était c'est quand même assez intéressant. Il a vécu le jour de la libération, les jours de la libération de Paris, ici, à Paris. Bon, et il prend ça comme exemple. Il dit, ben écoutez, personne après pour décrire ce qui s'est passé, c'est un tel bordel, excusez-moi, mais ça tirait dans tous les sens, ma passion n'a même jamais tout à fait élucidé la fusillade dans la cathédrale, etc. Bon. Mais bon, les détails, on ne sait pas, mais attendez, il n'y a pas un mec qui va dire, mais non, Paris n'a pas été libéré, c'est toujours... Ben, toujours... Non, parce qu'on était dans nos caves, nous les résistants, et puis on s'est dit, quand même, il y a comme des appels à la radio, il y a les alliés, etc. Donc, si qu'on dirait que ça y est, Paris est libéré. Et alors on commence à écrire un midrash. Mais c'est exactement ça. Alors évidemment, le détail de la libération, personne n'est d'accord. Leclerc, on ne sait pas par où il est rentré, mais enfin, le détail du schmilblick, après, il y a des disputes, d'historiens. Mais ça n'empêche que Paris a été libéré le 25 août, ou un peu après, je me souviens bien, c'est Saint-Louis, quoi. Ça, c'est le jour où on a chanté le Tédéum. Et puis c'est mort, quoi. Voilà. Bon, la résurrection, c'est pareil. Le Christ est ressuscité. Bon, il y avait un an, j'en avais deux, je sais pas. Ouais, bon. Les linges étaient comme ci ou comme ça, moi je sais à peu près comment ils étaient, mais si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Bon, les sanhédrites, les gardes ont été voir les sanhédrites après avoir vu l'un ou sans l'avoir vu, peut-être pas. Bon. Le deuxième d'Emmaüs, c'était un tel ou c'était un tel, peut-être pas. Bon, mais Christ est ressuscité. Voilà, ça c'est l'intéressant. Alors voilà comment en gros ça se passe. D'abord il y a la résurrection, alors ça la résurrection mystère, justement on n'en parle pas parce qu'on en parlera plutôt dans la deuxième instruction. Bon, et peut-être une manifestation. Alors j'ai mis apparition, enfin à Notre-Dame j'ai mis entre parenthèses parce qu'elle n'est pas dans l'écriture, mais bon, j'ai pas mis comme Christophanie parce que Notre-Dame n'avait pas besoin d'une preuve de la résurrection. La Christophanie est une preuve de la résurrection. Notre-Dame a eu sans doute la présence de son fils. C'est plutôt une théophanie au travers de l'humanité de Jésus. Bon. Mais on laisse ça, c'est plutôt un aspect mystique, fait de la retraite du rosaire. Donc la retraite du rosaire, on revient là-dessus, dans la prédication sur la résurrection. Donc vous trouvez ça sur notre site, hein, un site est comme on fait. Chemereux sans accent.org, vous arrivez sur la traite de Rosa. Donc là, alors ça c'est dans les dernières heures de la nuit. Hein, là, ça commence à pâlir un peu du côté de l'Orient, mais un tout petit peu. Hein. Bon. Et les femmes veulent encore ramener, les 32 kilos ne suffisent pas, elles veulent en mettre encore plus, parce que l'enterrement juif, c'est très particulier, on ne lavait pas le cadavre, parce que le sang est sacré, et on mettait des aromates partout sur la banquette, sur le corps, sur les linges, etc. Donc il en fallait des kilos. Et elles veulent continuer par dévotion et tout, puis parce que c'est pas elles qui l'ont fait le vendredi soir, donc ce que les hommes ont fait est mal fait, par définition. Enfin ça c'est un des points, un des topoi, un des lieux communs de l'humanité. Donc on va refaire, tu sais pas, où il faut ranger les choses. Ça a mal rangé Jésus, elles avaient tout observé avant, mais elles n'avaient pas voix au chapitre, parce qu'il fallait faire vite, il y avait les légionnaires qui étaient là, qui poussaient le mouvement. Heureusement qu'elles avaient le tombeau pas loin. Donc, mais elles reviennent, alors sûrement certaines n'ont pas prévu, sont obligées de faire le détour par le centre-ville pour acheter des aromates. Bon. Par contre, Marie-Madeleine va direct. Hein. Et en fait, la première manifestation de la résurrection, c'est le tremblement de terre apporté par saint Matthieu, le roulement de la pierre, une pierre énorme qui pèse des dizaines de kilos, peut-être des quintaux, qui servait à bloquer l'entrée de l'antichambre funéraire, parce qu'il y avait une antichambre et une chambre, avec un passage très surbaissé, et deux couchettes à droite et à gauche, où on mettait les... Il n'y avait encore eu personne dans ce tombeau-là. Mais avant l'antichambre, il y avait donc une très grosse pierre, on en voit encore des tombeaux juifs comme ça, il fallait plusieurs hommes pour rouler. Mais la résurrection ayant eu lieu, bon, le Christ n'a pas besoin qu'on roule la pierre pour sortir, on verra ça la prochaine fois, et les anges descendent, parce que comme souvent dans la vie du Christ, il y a des anges. Parce que ça maintient l'ambiance, c'est beau, c'est... Parce qu'il y a des anges, parce que les anges existent, et... Je parlais récemment du problème de l'évolution avec un de mes frères qui est scientifique, et je disais, oui, à tel point qu'il est un peu problématique, il dit, oui, mais c'est les anges qui doivent pousser au moment du changement, quoi. Enfin, on peut admettre ça, hein, parce que c'est pas impossible qu'ils interviennent, mais je dis, oui, c'est assez joli, mais c'est pas très scientifique, quoi. Enfin, dans le mode de procédé des scientifiques, on aura peut-être un peu de mal à leur faire admettre. Quand je connais des grands scientifiques qui disent que la comète qui est tombée sur Yucatan, là, qui a détruit toutes les grosses bébêtes qui ont empêché les autres de se développer, et ça serait un ange qui l'aurait bazardé, quoi, pour permettre les bonnes filières de se développer. Bon. Mais ça, on peut toujours rêver comme ça, mais bon, je crois que c'est pas du tout à exclure. Hein. Mais disons qu'en tout cas, pour la résurrection, c'est le domaine physique. Hein. Donc, Dieu peut sans doute, certainement, mais il n'a pas forcément besoin d'utiliser les anges, même pour faire joli, quoi qu'il les utilise, c'est sympa. Mais par contre, pour la révélation, ils les utilisent quasiment nécessairement. Ils sont là à la nativité, ils sont à tous les grands moments. Donc, ils arrivent, ils descendent, et les gardes qui sont là, parce qu'il y a des scellés sur le truc, des scellés qui ont été mis par la garde. En fait, ce sont des gardes qui sont soit des Romains, ça c'est assez discuté, mais c'est peu probable qu'ils aient sans doute risqué la condamnation à mort après la disparition du cadavre, soit la garde qui était allouée au Sanhédrin, qui était sous sa juridiction, et avec l'accord de Pilate, ils l'ont mis à garder. Vous voyez. Mais il y avait quand même les scellés de l'Empire. Et on a retrouvé une loi qui semble avoir été faite précisément, peut-être en relation avec ces événements, mais enfin une loi qui condamne à mort les violateurs de sépulture. Donc les gars qui auraient rompu les scellés auraient été en faute par rapport d'une part à l'interdit du sang de toucher le cadavre des juifs et par rapport à la loi de violation de sépulture promulguée par l'empereur. Bon. Et alors tu vois-t-il, tout ça vole en l'air, les gars sont effrayés, ils sont dans une sorte d'état de coma, et d'après mes souris, ils ont même entendu les anges parler aux femmes. Alors, c'est pour ça que j'ai mis une étoile, parce qu'on ne sait pas à quel moment ils se sont barrés. Quoi. C'était incroyable, ils sont barrés, ils sont partis pour faire leur rapport au Sanhédrin. Ouais. Ils risquaient la mort, hein, parce que les peines de l'armée romaine, hein, c'était. Si, ils ont raconté après qu'ils dormaient, attendez, le mec qui dort pendant une garde, il passe c'est au moins la flagellation, parfois la flagellation jusqu'à la mort, ou sinon l'exécution capitale s'ils sont en temps de guerre. Hein. Des choses comme ça, les Romains, ça, discipline militaire, c'était pire que les Baddaf, hein, pour ceux qui ont lu les vieux bouquins sur les bataillons disciplinaires, qui étaient monstrueux. Hein. Et les Romains, c'était terrible. Hein. Donc c'est assez incroyable ce qui s'est passé. Donc c'est très probablement en fait des gardes des Sanhédrites qui étaient préposés là et qui ont entendu ce signe de Jonas, ils l'ont eu, et donc ils ont dû pouvoir raconter au Sanhédrin qu'il y a eu un ange qui a témoigné que c'était la résurrection. Bon, mais même si ça n'en est pas ainsi, ils sont écrasés, ils ne gênent plus. Madeleine arrive toute seule au tombeau. C'est pour concilier différents textes, il faut maintenir ça comme ça. Elle voit que la pierre est roulée, et dès qu'elle voit qu'elle est roulée, elle dit il y a un vrai problème, elle ne pense pas à la résurrection, et ce qui montre bien qu'ils n'ont pas fait de l'autosuggestion. C'est pas un truc qu'on attend, si vous voulez. Après une nuit où vous êtes shooté ou machin ou je sais pas quoi, enfin je sais pas, vous ne faites pas trop, ou une semi-rave partie pour Cato débile, le matin on peut peut-être imaginer des choses auxquelles on rêve, quoi. Et puis moi j'aurais fait ça et machin et tout, bon, parce qu'on s'est bien excité là-dessus. Puis c'est des trucs auxquels on a pensé, mais sûrement personne n'y pensait à ce truc-là. C'est ça qui est un événement qui force le réel et qui force la pensée des gens. Donc Marie-Madeleine, voyant que c'est roulé, a un bon réflexe, elle doit prévenir les chefs. Pierre et Jean qui sont dans une maison, peut-être la maison de Notre-Dame à Jérusalem, où Jean a été introduit, étant familier de famille sacerdotale de Jérusalem, comme on le voit dans la Passion. Il avait pris Pierre avec lui, bon, donc il va les prévenir. Et les autres femmes qui ont acheté les aromates arrivent, et ce sont les autres femmes qui constatent le premier le tombeau vide, rentrent dans l'antichambre, et peut-être dans la pièce funéraire après, et c'est là où elles découvrent le ou les anges, j'ai mis les deux possibilités, suivant l'un ou l'autre synoptique, qui leur évangélise la résurrection, et qui s'appuient sur la prédiction. Comme c'était prédit. Alors, elles sont évidemment complètement éperduées. Hein. Elles entendent bien les anges, elles sont affolées, elles ont tellement la trouille, elles disent on va tous se faire engueuler, etc. Au début, elles n'osent pas parler, peut-être même qu'elles se disent il ne faut pas parler aux hommes parce qu'elles vont se faire traiter de cinglées. Et à la fin, nous dit Saint-Luc, elles disent tout à tout le monde. Donc c'est assez bien vu comme changement de. Vous voyez, avec le courant de la journée, c'est des va-et-vient, c'est des. Bon, ferme résolution de ne pas communiquer le secret, et à la fin, nous disent tout à tout le monde. Mais ça ne va quand même pas marcher. Elles ne vont pas réussir à convaincre de la résurrection des apôtres. Elles vont les convaincre, au moins Pierre, de venir voir, au moins Marie-Madeleine va le convaincre, mais ce n'est pas elles qui vont déclencher la foi pascale. Bon. Donc, les gardes se sont enfuis, font leur compte rendu au grand prêtre, qui est assez invraisemblable d'ailleurs. Et c'est très très curieux cette histoire, ce n'est pas tout à fait élucidé. Les gardes viennent raconter, on dormait, le tombeau est vide, peut-être qu'ils parlent de l'affaire de l'ange. Les autres disent pas du tout, mais attendez, c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais ils s'attendaient encore à quelque chose de Jésus, quoi. Ils font raconter un truc invraisemblable, pas du tout attesté, parce que des gardes qui dorment ne voient pas qu'on peut geler la sépulture, et qui en plus, ça fait vraiment être une combine. Parce que s'ils racontent ça à Pilate, Pilate va être furieux, quoi. On met des gardes pour un. Le tombeau est violé, etc. Donc, c'est quand même extrêmement bizarre cette affaire-là. Alors, du côté des gardes, c'est pas clair, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que les Sanhédrites n'ont pas dit, mais non, c'est... Voilà. Alors ensuite, il y a un épisode décisif, il y a deux épisodes décisifs, l'entrée de Pierre et de Jean dans le tombeau, et l'apparition, mentionnée indirectement par Luc et Paul, à Saint-Pierre dans l'après-midi. C'est ça, les faits fondateurs de notre foi pascale, c'est cela. Alors donc, Marie-Madeleine a cherché les patrons, les chefs, là, Pierre et Jean, ils se mettent en marche, bon, Jean est plus jeune, puis surtout, il a plus la pêche, parce que lui, il n'a pas travaillé trop fort. Hein. Donc, il gagne son marathon, enfin, il y avait peut-être, disons... Quoi, il y a peut-être 700 mètres à faire ou 1000 mètres, quoi. je ne sais pas combien de temps il a fait, ou, enfin, ce n'est pas des très grandes distances, hein, mais bon, ils accélèrent, c'est Jean qui le décrit lui-même. Il arrive le premier, mais il n'entre pas. Parce que c'est le pape élu, pas encore sacré, si vous voulez, mais il est élu, c'est Pierre. Ça, c'est très beau, oui. Donc il attend que Pierre rentre. Pierre rentre et il voit l'affaissement. Alors le frère a dû vous l'expliquer un peu pour ceux qui étaient là en octobre. Il y a un truc très particulier, donc il y a une antichambre. Et après, il y a une deuxième chambre, et on est obligé pratiquement de se courber pour rentrer, avec deux banquettes, et les morts étaient posés sur les banquettes recouvertes d'ongles. Et il était évidemment pratiquement pas momifié, mais enfin, il y avait beaucoup d'ongles, beaucoup de bandelettes sur eux, hein, de façon à éviter l'odeur du cadavre, etc. Et puis par respect et tout. Et alors, donc, ils étaient. Pierre rentre, il voit l'affaissement particulier des linges. Ensuite, Jean va le constater et Jean va le décrire. Alors c'est là où il y a eu des progrès, parce que je crois qu'on a fait une analyse tellement serrée du texte, je crois qu'on est arrivé, à mon avis, une certitude propre sur la position des linges, et qui était d'ailleurs prévisible à cause de la finale, il vit et il crut. C'est en voyant les linges que Jean se dit, il est passé au travers. Oui. C'est qu'il a vu les otonias, c'est que les bandelettes qui étaient... Il y a deux possibilités, ou bien il y avait des bandelettes partout, ou bien il y avait le suaire d'abord, le fameux linceul de Turin, et puis quelques bandelettes au point clé, les chevilles, les genoux, les reins, et puis les mains. Et, bon. Et tout ça est comme un soufflet aplati sur la banquette. Oui. Mais il a fallu qu'il rentre, parce que il a fallu qu'il rentre, et même si la tête était vers l'entrée, ce qui est assez probable, ils n'ont vu la position de la tête qu'en dernier. Et donc il voit ça, et à l'emplacement de la tête, donc j'ai mis la traduction de Feuillet, c'est un des premiers qui a un très bon exégète catholique, qui a mis ça au point, il voit le linge, donc qui était, alors il y a aussi deux possibilités, mais enfin prenons la montonnière, je ne sais pas ce que vous a raconté le Francesca, s'il a détaillé la chose, mais la montonnière dont on voit son motif, une trace sur le suaire, qui entoure la tête et qui tient le menton, hein, qui était donc en plus particulièrement empesé d'onguent, hein, et donc qui était plus rigide, et qui, elle, a gardé sa forme à l'intérieur. Donc, rentrant, si vous voulez, il voit sous les linges, hein, c'est pas le linceul qui est le linceul aussi est affaissé, bien sûr, mais tous les linges qui ligotaient, si vous voulez, sont affaissés sur eux-mêmes, mais il y a une bosse à l'emplacement de la tête. Donc ça, c'est évident que c'est pas, il n'y a pas une violation de sépulture. Si vous voulez une sépulture, vous prenez le cadavre Fissa, comme disent les Arabes, hein, Fissa, hop, bien. Et puis chouf, vous prenez le. Attendez, c'est que vous avez la peine de mort au double titre. Hein. Ou alors vous déchirez tout, et si vous déchirez, vous achetez des arrachements, il n'y a aucun arrachement sur la suite. Donc attendez, non, il y a un problème. Hein. Et lui, comme il se souvient qu'on a des prédictions de la résurrection, il dit non, il est ressuscité. Donc c'est le premier qui semble-t-il. Alors Pierre aussi, il m'a dit que Pierre a cru. Bon, j'incline à le penser. Bon. Enfin, il repart pensif, parce qu'il dit bon, Jésus est ressuscité. Moi, je suis le pape élu, mais j'ai quand même fait des bêtises. Est-ce que je vais être sacré? Qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, la suite du film, vous la connaissez, mais pas lui, quoi. Donc, heureusement qu'il y a eu l'apparition l'après-midi. Alors, donc, voilà. C'est événement décisif. Hein. La vue des linges. Tombeau vide, vue des linges. Foi de Jean. Après, Marie-Madeleine revient. Les autres sont partis. Marie-Madeleine revient, tournicote dans tous les sens. Apparition, première Christophanie, magnifique. Alors là, il faut lire les bouquins sur Marie-Madeleine, les tableaux, etc. J'ai eu la chance d'être le 22 juillet dernier en Provence. Donc, la grande dévotion à... L'apôtre des apôtres, la première qui a eu la Christophanie, j'ai appelé ça Christophanie, elle a vu le Christ, elle a même touché, elle lui a serré les pieds, si vous voulez, alors Jésus dit, ne me retiens pas, etc. Mais non, première apparition à celle qui l'avait revêtue déjà, au moins dans ses pieds, qui lui a fait les onctions pour sa sépulture. Et Jésus y tient, parce qu'à chaque fois que Marie-Madeleine est attaquée, il la défend. Il la défendra contre Judas. Ensuite, il va reprocher tout à l'heure, enfin, dans les apparitions subséquentes aux apôtres, de ne pas avoir cru son témoignage, etc. Donc il semble bien tenir au rôle de Marie-Madeleine. Et c'est bien que ce soit elle qui a eu cette première mission les Byzantins, l'apôtre l'appelle la mirophore égale aux apôtres. Hein, en un sens, un rang égal aux apôtres. Et la liturgie dominicaine l'appelle apostola apostolorum, l'apôtresse des apôtres. Donc voilà, elle a eu ce rôle très important. Mais vous voyez, c'est elle qui a eu le premier contact, vous voyez. Pendant ce temps, les femmes parlent aux disciples qui sont réunis ensemble quelque part, qui ont fini par s'attrouper à cause des bruits qui se répandent dans les différentes maisons de Jérusalem où ils se trouvent, mais ils ne les convainquent pas. Ça, c'est important. Ce n'est pas le témoignage des femmes. D'ailleurs, en droit juste, ce n'était pas suffisant. Le témoignage de la femme n'était pas reçu. Bon, pas très gentil, mesdames, mais c'est comme ça. C'est pareil encore dans certains droits que je ne nommerai pas. mais ou du moins ça a moins de valeur. Quoi. Bon, enfin, c'était bien, c'est intéressant de voir que le christianisme commence par le témoignage des femmes. Bon, il y a quand même à la fois le christianisme, une continuité et c'est aussi une rupture. Il y a quand même un certain progrès, sans tomber dans le féminisme délirant qu'on nous impose aujourd'hui. Bon. Alors Madeleine revient, puisqu'on lui a dit d'aller l'annoncer, elle le dit aux disciples, il ne la croit pas. Mais d'ailleurs, les disciples d'Emmaüs diront c'était des radotages de bonnes femmes. On a des apparitionnistes chez nous, ils ont toujours une apparition à la bouche, on ne va pas voir leur apparition. Bon. Alors, voilà. Donc, ensuite, le premier point, donc évidemment, apparition à Marie-Madeleine, mais la position des linges très importante, et ensuite, Jésus est vu par Simon-Pierre. Alors ça, ce sera l'événement capital, et c'est absolument sidérant. Il est rapporté par deux phrases laconiques, l'une de Luc et l'autre de Paul, sans aucune fioriture. Ah oui, vous dites qu'il a apparu, mais peu importe, il est apparu à Pierre, c'est fini. Quand tu seras converti, raffermis tes disciples. Donc c'est le témoignage de Pierre qui va être l'élément officiel que Saint Paul donnera aux Corinthiens. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour sur les Écritures, et il est apparu à un tel, et il y a Pierre évidemment en tête de la génération. Parce que pour les Corinthiens, pour tout le monde, c'est d'ailleurs une des preuves de l'épiphanie de la primauté. Ça, c'est important aujourd'hui, un certain rapprochement avec eux. Au moins avec les Russes, enfin, réel ou esquissé, enfin, espérons qu'il est réel au moins par une partie. Et cette question de la primauté est un des points d'achoppement, mais il est attesté dès les toutes premières apparitions. Le fait que Saint Jean ne rentre pas le premier, et le fait que c'est le témoignage de Pierre qui est décisif. Ensuite, en fin d'après-midi, apparition des disciples d'Emmaüs, c'est le seul apparition qui est très mise en forme, très circonstanciée. Il semble que Saint Luc l'ait recueilli de la bouche même des protagonistes quelques années après. Donc il l'a décrit avec tout un charme littéraire très impressionnant, qui a été mis aussi en scène par les apôtres, qui sont nos amis, comme le pape l'a rappelé en consacrant la basilique de la Sagrada Familia à Barcelone il y a quelques jours. Parce qu'ils mettent en image, mais le Christ est incarné. Donc si le Christ est incarné, il peut y avoir des images. Donc, c'est un 8e concile qui a défini ça contre les iconoclastes. Donc les basiliques et tout ça, c'est des images qui nous renvoient à l'invisible. Bon. Jésus apparaît aux pèlerins d'Emmaüs. Ensuite, donc, les pèlerins reviennent. Alors, on ne sait pas à quelle distance ils ont fait dans la journée, mais en fonction du lieu où se situe Emmaüs, hein, soit ils ont fait une étape de Chartres, à peu près, du Paris-Chartres, soit ils ont fait encore plus à Dodemulet, enfin, je ne sais pas, c'est selon l'hypothèse où on met Emmaüs. En tout cas, ils arrivent dans la nuit à l'endroit où se trouvent tous les apôtres, et là, ils se font ouvrir, parce que les apôtres ont quand même encore toujours assez peur. Hein. Ils ne vont pas céder à l'euphorie d'un seul coup. Hein. Ils rentrent, ils se font admettre, ils expliquent qu'ils ont vu le Seigneur, et c'est pendant qu'ils discutent, on leur répond d'ailleurs, ben vous l'avez vu, c'est très bien, mais c'est pas grave si j'ose dire, il est apparu à Pierre. Donc là, c'est à partir du moment où il est apparu à Pierre, c'est l'élément décisif. Et Jésus apparaît au milieu d'eux. Et ce qui est intéressant, j'anticipe un petit peu, parce qu'on n'aura sans doute pas le temps de tout dire, Jésus se manifeste à tous, et il insiste pour qu'on reconnaisse l'identité personnelle de soi, avec celui qu'ils ont connu avant. Bien sûr, il est différent parce qu'il vient les portes étant fermées, parce que ceci, parce que cela, il se fait reconnaître quand il veut de Marie-Madeleine, des pèlerins d'Emmaüs, hein, mais c'est bien lui. Et donc, il les rassure, non, je ne suis pas un esprit, parce qu'on pourrait penser que c'était quelque chose de fantasmagorique, vous voyez. Les esprits n'ont pas de chair et d'os. Et même, il demande à manger pour qu'on voit bien qu'il a vraiment un corps. Il se fait toucher. Et Thomas n'étant pas là, vous connaissez l'épisode fameux. Thomas exige une preuve encore plus forte. Une semaine après, il l'a, il met son doigt dans la plaie des poignets, il met sa main dans le côté. Quoi. Donc c'est tout à fait charnel. Hein. Voilà, et le Christ va multiplier les christophanies. Mais alors, soit disons, certaines, je dirais pas par affection, mais quand même il y a un élément très très mystique dans l'apparition à Marie-Madeleine. D'autres c'est beaucoup plus canonique comme l'apparition à Céphas, et puis à tous les disciples réunis, et puis toute une série d'apparitions en Galilée, avec une ambiance tout à fait extraordinaire. Quand on relit ces évangiles de Saint Jean, avec le petit déjeuner préparé par le ressuscité, c'est quand même assez extraordinaire. Mais ça nous montre bien, vous voyez, qu'il n'enlève pas les joies terrestres, celui qui donne les royaumes célestes. Et Jésus, donc, faisant la pêche miraculeuse du lac de Tibériade, quand ses apôtres reviennent, l'ont reconnu finalement, Saint-Pierre se met son vêtement dessus, se jette dans la flotte pour aller plus vite sur le bord, ils arrivent, Jésus a commencé déjà à préparer le petit déjeuner. C'est assez extraordinaire. Il y a 40 jours qui sont vraiment... Enfin, on peut faire beaucoup d'oraisons sur ces 40 jours entre la résurrection et l'ascension. Alors, en fait, Jésus, si vous voulez, est déjà monté vers son Père au soir de Pâques, si vous voulez. Mais il va manifester ça publiquement seulement à l'ascension. Et donc, de temps en temps, il se rend visible comme s'il était déjà là. C'est impressionnant, ça aussi. Alors on en reparlera, mais en tout cas il a bien témoigné très largement de sa présence et de, sa, de la réalité, de son identité physique avec le Jésus qu'ils ont connu pendant 2 ans et demi. Et en particulier les apôtres, à cause de ce contact avec lui, vont plus être les mêmes hommes. Voyez. C'est pour ça que mon troisième point que je vais pouvoir que résumer, c'est qu'en fait, si vous voulez, la chaîne de la démonstration au point de vue historique est imbridable. Si vous prenez ensemble les trois choses, le tombeau vide, la réalisation des prophéties, donc dites par les anges, ce que Jésus avait fait, les apparitions, et le Christ dans les apparitions, c'est pas simplement comme l'ange de Tobie, hein. Je semblais manger, etc. Le Christ dit, c'est moi, coucou, c'est moi, Léo, ouais, c'est moi. Il dit pas, je suis un ectoplasme qui est produit par un appareil à produire des ectoplasmes, maintenant question secondaire. Non, je sais pour vous consoler parce que vous êtes tristoun, quoi. Donc, attendez, on dit que c'est moi, quoi. C'est, non, c'est vraiment lui. Voilà. Donc, cette chaîne entre tombeau vide, les prophéties, il apparaît et il dit que c'est lui, bon, etc. Et en plus, c'est un quatrième élément, c'est que tout ça change complètement les apôtres. Il faut trouver une cause proportionnée au changement total des apôtres. Les apôtres étaient complètement abattus, désolés, tout effondrement de leur rêve de messianisme, quand même déjà très, très charnel. Vous voyez, on a du mal, enfin, c'est pour ça qu'il faut un peu étudier dans la réalité, parce que ce matin, on avait un cours avec ce professeur d'exégèse sur un livre de l'Ancien Testament, qui est quand même reste encore très Ancien Testament, c'est avant la croyance explicite dans l'éternité, dans la résurrection. Donc qui apparaît quand même assez tardivement dans l'Ancien Testament. Eh bien, un des élèves a dit, mais comment est-il possible qu'une chose aussi importante ait été crucifiée? Et comment est-il possible que les Juifs aient une religion si limitée autant? C'est comme ça. C'est sidérant, mais c'est comme ça. C'est sidérant à nous, pour nous qui sommes chrétiens. Mais c'est pas sidérant pour un Juif actuel ou un musulman. Mais l'élément charnel, c'est l'élément temporel, est extrêmement prégnant. Donc les apôtres étaient quand même comme ça. Ils étaient gentils, ils étaient pieux, ils étaient tout ce qu'on veut. Mais ils étaient quand même, est-ce que tu me mets à droite et à gauche, ministre des Finances, ministre des Armées, pour mettre une ratatouille à la corde qui m'a énervé quand j'allais, qui me contrôlait quand je passais le guet à Betabara, etc. Ils avaient tous leur glaive chez eux, hein, c'est encore comme ça, maintenant c'est décalage. Mais bon. Donc c'était des gens qui avaient le sang assez bouillant, les Galiléens. Donc tout s'effondre. Et c'est le déshonneur total, le Christ qui a fait des miracles, etc., et dans une fosse et tout. Et c'est ces gars-là qui, en quelques jours, comme le présente le père de Grand Maison, Jésus, Léonce de Grand Maison, très beau livre, Jésus-Christ, des années 30. Oui. Alors, la conviction inébranlable qui change et renverse leur état d'âme intérieur, leur faisant un cœur nouveau. C'est désillusionner ces hommes qui avaient perdu l'espérance même d'un avenir meilleur, la foi ressuscitée, en fait des témoins inconfusibles, dévoués jusqu'au sang. Et de fait, les apôtres ont témoigné jusqu'au sang de choses qui étaient en leur désavantage d'une certaine façon, parce qu'on raconte aussi toute leur petitesse dans ces événements. Le secret de ce prodigieux changement, c'est la foi de Paul. Donc, il y a eu un changement extraordinaire qui ensuite a changé le monde. Alors, dire qu'un fait réel n'a pas de cause réelle, n'a qu'une cause imaginaire, c'est vraiment sortir de l'humain. Mais c'est ça qui est important. Les ennemis de la résurrection, du fait historique de la résurrection, sont obligés de faire une image de l'homme qui est une image complètement diminuée. Vous voyez ? C'est ce que dit Grand Maison, tout à fait justement, en s'appuyant sur Renan lui-même. Rien ne dure, dit Renan, que la vérité. Tout ce qui la sert se conserve comme un capital faible mais acquis. Rien dans son petit trésor se perd. Ce qui est faux, au contraire, s'écroule. Le faux ne fonde pas. On peut s'exciter pendant quelques temps, mais après, ça s'écroule. Et un théologien très moderniste, Édouard Leroy, là qui dit une chose juste cette fois-ci, ce qui est pure chimère illusoire, pure hallucination morbide, sans valeur de vérité, peut sans doute susciter momentanément la foi la plus complète, mais une telle foi n'est pas nourrissante ni fructueuse au point de vue moral. C'est vrai que les machins du temple solaire et compagnie, ou les fous qui se suicident, qui se jettent par la fenêtre, ils ont cru ou ils ont vu le diable en réalité, les choses qui arrivent aujourd'hui chez nous, ça ne fonde pas grand-chose. C'est faux. Enfin, c'est peut-être vrai qu'ils ont vu le diable, mais le diable raconte des choses fausses. Une telle foi n'est pas nourrissante ni fructueuse. Les apôtres, ils ont quand même fondé l'Église qui a un peu fait parler d'elle, non ? Elle ne produit rien de solide, elle ne transmet pas bien loin, elle ne rassemble pas beaucoup d'âmes. L'Église a quand même rassemblé des milliards d'âmes d'élite dans une communion qui la vivifie. Elle ne résiste pas à l'action réductive et dissolvante de la durée. Donc, vous voyez, c'est le quatrième élément, après le tombeau vide, les prophéties, les apparitions, c'est le changement des apôtres. Donc ce changement requiert une cause. Et alors il ne faut pas dire, ah ils ont cru ça, peu importe si c'était vrai ou pas, parce que c'est attribuer la même force, vous voyez, c'est un suicide de l'intelligence, dit le père de grand maison, qui suppose à la vérité, à l'illusion, le même pouvoir que de créer la même valeur féconde que... Ouais, c'est pas possible. Si vraiment tout ce qui est raconté dans les épîtres, dans saint Paul, etc., était le fruit d'une espèce de construction, ben les apôtres auraient tenu dans les tortures combien de temps? Un an, deux ans? Pas plus, quoi. C'était impossible, parce qu'en plus on monte, je dirais, historiquement c'était impossible qu'ils fassent un montage. Hein, le montage existe dans les romans, il y en a même d'excellentes pour ce titre, mais ils ne pouvaient pas faire un montage. Parce que c'était contre leurs principes religieux, c'était contre leur orgueil personnel, c'était contre tout. Et puis les ennemis l'auraient immédiatement démonté. Donc c'est pas un montage. Donc s'ils étaient désillusionnés, ça aurait duré quelques années, et comme dit Gamaliel, ce serait effondré après. Et c'est donc en fait que ce changement prodigieux requiert une cause. Voici ce que dit le père de grand maison. Ceci prend une valeur religieuse indubitable pour qui admet que le monde, en particulier le monde des esprits, n'est pas livré aux convulsions d'un hasard aveugle. Évidemment, si vous lisez la résurrection en pure les évangiles en pur matérialisme, sauf par une grâce de Dieu, ils ne vont pas vous dire grand-chose. Parce que vous n'admettez pas l'esprit et l'ordre, enfin, l'orientation des choses. Donc si on admet que le monde et surtout les esprits ne sont pas livrés aux convulsions d'un hasard aveugle, mais orientés vers une fin par une puissance sage et bonne, dans cette hypothèse, l'immense réalité chrétienne postule à son origine une croyance fondée dans la réalité. Et donc l'attitude des apôtres, qui ont témoigné d'une réalité qui les dépassait, on verra à quel point dans la prochaine instruction, puisque là je ne peux pas développer tout ce qu'il y a dans mon troisième point, mais cette attitude des apôtres prouve qu'ils ont véritablement été témoins d'un fait hors norme qui les a complètement changés et qui lui-même est un fait qui a affleuré dans l'histoire. Je vais vous lire pour terminer, pour vous montrer jusqu'où on peut pousser le délire, un passage de Renan. Alors là, c'est mauvais. Renan, bon, tout à l'heure, il a dit quand même quelque chose. Juste là, c'est Renan, mauvais. Description de la naissance de la foi pascale par Renan. Pendant un instant de silence, alors les apôtres sont réunis, tout est foutu. Ils sont là entre eux. Le rabbi Nazareth, il est mauvais. Il a raté. Et on a tout le monde contre nous en plus. Hein. Et en plus, avec contre eux des gens qui avaient le pouvoir politique et religieux, le pouvoir de mettre des impôts, de mettre un mort, etc. Donc ils sont réunis entre eux. Et toute leur vie, ils ont pratiquement, l'entreprise de pêche a été fermée pour cause d'apostolat pendant deux ans. Et ils sont à imaginer un peu le moral des apôtres. Hein. Pendant un instant de silence, quelques légers souffles passent sur la face des assistants. Donc il y a du vent, il y a un petit vent. Voilà. À ces heures décisives, un courant d'air, une fenêtre qui crie, un murmure fortuit, arrête la croyance des peuples pour des siècles. En même temps que le souffle se fit sentir, on crut entendre des sons. Quelques-uns dirent qu'ils avaient discerné le mot shalom, bonheur ou paix. C'était le salut ordinaire de Jésus et le mot par lequel il signalait sa présence. Ce fut donc une chose reçue que le dimanche soir, Jésus était apparu devant ses disciples assemblés. Quelques-uns prétendirent avoir distingué dans ses mains et ses pieds la marque des clous. Bon. Je passe quand même assez éloquent. Ça, c'est une des échappatoires. Si vous voulez, la résurrection, c'est une connerie de ce niveau-là. C'est quand même assez hallucinant. Quoi. Personne n'a jamais écrit un truc pareil sur Tacite, tu Suétone. Disant, Tacite, un jour, avait trop bu, donc ce qu'il dit, c'est pas vrai. Suétone, il n'y a pas de douce fédère. On se rend pas compte à quel point les hypothèses élaborées, si vous voulez, sortent complètement du sens commun. Parce que lui, c'est vraiment ça, quoi. C'est le vent, c'est un petit coup de lumière et tout. Et l'autosuggestion, l'esprit exalté, or ils n'étaient pas du tout exaltés, ils étaient complètement abattus, quoi. Donc vous voyez, en fait, ce qui est intéressant quand vous regardez, serrez le texte de près, enfin l'histoire de près, l'événement les a forcés. Parce qu'ils n'étaient pas prédisposés, ils ne se sont pas illusionnés. Donc l'événement les a forcés, et après ils ont témoigné de nous. Voilà, je termine pour ce soir. Non, c'est un autre bouquin. Ça s'appelle le passage que j'ai lu là. Ça s'appelle Les Apôtres. C'était publié à Paris, mais sans date. Alors, c'est embêtant. Je pourrais peut-être vous trouver l'éditeur. Les Apôtres. Non, ben il y a eu toute une conférence en octobre, hein. Vous avez séché là en octobre. C'est ça le problème. Les prédicateurs préparent en continu, mais les auditeurs ne sont pas forcément si concernés. C'est la modernité. Ben, il y a eu toute une conférence, je ne sais pas si elle a été enregistrée. Donc peut-être que vous pouvez vous mettre en rapport avec notre homme de l'heure. Oui?
Cette référence est essentiellement avec l'écriture.
Oui.
Et on va vous dire à ça, on peut dire référence également à des auteurs un peu plus profanes.
Oui.
Et justement, sur le point de vue des personnes qui essaient d'avoir des signes sensibles de la véracité historique.
Oui.
Donc, on pourrait mettre en doute d'être à l'histoire de César, comme vous l'avez dit.
Non, on ne peut pas, à mon avis, mais. Ben écoutez, j'ai bien fait d'apporter mon résumé de les évangiles sont-ils historiques. Alors, les témoignages non chrétiens. Et habituellement, ils font allusion au fait qu'il a été tué et que les chrétiens disent qu'il est ressuscité, voilà, qu'il vit encore. Alors vous avez Flavius Joseph, donc dans différents passages des antiquités juives. Alors ça témoin vraiment de l'époque, hein, de la guerre judaïque, etc. Vous avez les anciennes sources judaïques comme le Mishnah et le Talmud, polémiques contre les chrétiens, sans nier du tout la réalité des faits. Ensuite, du côté des non-religieux, si vous voulez, vous avez Pline le Jeune dans une lettre à Trajan en l'an 112. Vous avez Tacite, qui a vécu de 69 à 117, dans les Annales. Vous avez Suétone, qui a écrit vers 120 la vie de Claude et la vie de Néron. Vous avez Justin dans son apologie fait état d'actes impériaux qui étaient visibles de son temps à Rome. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est ce que j'ai noté quelque part, la valeur du Nouveau Testament et l'existence historique de Jésus ont été affirmées jusqu'au XVIIIe siècle, où l'on commence à exagérer le silence des sources profanes, mais on ne connaît l'Antiquité romaine que par Tacite et Suétone qui parlent de Jésus. Vous voyez, c'est vraiment ce que dit Perret, là, ce ancien prof de, je sais pas où, de prof honoraire à la Sorbonne, vous voyez, on n'est pas loin. Il dit, quand on attaque la résurrection, c'est pas... Les sources historiques vont dans ce sens. Parce qu'en voyant, on surdétermine, on dit, mais vous, il faut que vous prouviez avec une évidence mathématique ce que dans tout autre domaine, on demanderait une certitude historique. Et à ce moment-là, on n'y arrive plus, parce que on sort de l'humain, si vous voulez. Dieu veut que la foi soit humaine aussi. Donc elle est fondée sur des témoignages humains.
La partie la vie de Christ, oui, c'est sur l'étape de sa résurrection que.
Oui. À mon avis, la résurrection est presque mieux attestée que la vie. Le fait de la résurrection est dans tous les textes, si vous voulez, dans les quatre synoptiques, tous les auteurs d'épîtres, tous les actes.
C'est pas très courant.
Non, c'est pas très courant. C'est une résurrection glorieuse. Mais c'est ça qui est intéressant, oui. C'est pour ça que c'est déstabilisant, si vous voulez, parce que. Si on commence par dire un fait pas courant ne peut pas avoir lieu, je dirais que si on descend de plusieurs crans, ben la science ne progressera jamais. Parce que précisément, le scientifique qui progresse, c'est celui qui fait attention aux faits pas courants, etc. Et puis en plus, c'est un fait qui va nous engager, donc forcément, ça demande une certaine rectification. Si vous voulez, le fait va être parlant lorsque le cœur est suffisamment ouvert par une certaine attitude générale d'humanité, quoi. Ce qui fait que la vérité est possible. Je ne me ferme pas a priori à une possibilité que... Enfin, on en parlera peut-être pas mal, parce que la prochaine instruction, c'est la résurrection, originalité absolue du christianisme. Je crois que c'est vraiment restreindre le réel et la nature de Dieu que de penser qu'il ne peut absolument pas ramener quelqu'un à une existence qu'il... non seulement celle qu'il a eue, mais la sublimer. Quoi.
Est-ce qu'un scientifique qui ferait une recherche objective humble parviendrait à la conclusion qu'effectivement c'est possible, enfin, ou un historien peut le faire sans l'aide de l'esprit. C'est-à-dire par là qu'à un moment donné, quand il arrive au bout de sa recherche, il dit bon.
Oui, alors bonne question. Ouais. Parce qu'on doit distinguer, si vous voulez, la façon de faire la recherche est d'ordre naturel. Oui. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il faut vraiment. Par exemple, si j'expérimente sur le suaire, je vais appliquer des lois historiques, archéologiques, électroniques, etc. Mais alors, il faut que je le fasse sérieusement. Et sans a priori. Bon. Donc, le mode, mais l'acte même que je vais poser, la recherche historique, va être fait au niveau naturel. Mais à cause du péché, je pense, enfin, c'est même quasiment moralement certain, que ça ne va pas fonctionner si je ne vais pas avoir la grâce pour apaiser les passions. Oui. Parce que la démonstration du théorème de Pythagore peut être faite, à mon avis, sans l'aide d'une grâce actuelle. Enfin, je m'avance beaucoup, mais je pense. Et, ou des trucs comme ça, parce qu'on s'en fout. Enfin, sur quelques malades, on s'en fout que ça fasse de 180 degrés ou plus ou moins. Quoi. Bon. Donc, parce que ça ne m'engage pas. Mais tout ce qui engage ma vie fait que quand je raisonne, mon regard peut être brouillé à cause du péché originel. Ça, j'en ai parlé lorsque, dans la deuxième conférence, est-ce que la révélation est nécessaire, la première conférence. Oui, elle est moralement nécessaire. Donc c'est pareil, la recherche est purement, par exemple ici, Perret fait une recherche, très très humble, hein, peut-être même en dessous ce qu'on peut dire, mais alors qu'il est chrétien, vraiment purement historique, mais un agnostic pourrait faire la même, mais je pense que pour arriver à la faire jusqu'au bout, il faudrait une grâce actuelle. Mais pour écarter les passions. Et une fois que la recherche est terminée, la foi ne tombe pas automatiquement. Parce que la foi est quand même le fruit du mariage de la raison et de la grâce. Quoi. Là, il y a une grâce de Dieu.
Et à un moment, il y a une bascule.
Oui, à un moment, ça bascule.
Elle n'est plus de l'ordre de la nature. Quoi.
C'est plus de l'ordre de la nature, mais ce n'est pas contre l'intelligence. C'est ça qui est très important de le dire. Parce que souvent, moi, ça m'exaspère à un degré absolument fabuleux. C'est que les gens pieux, ils sont assez casse-pieds, quoi. Parce que là, ils vous parlent, ils disent c'est irrationnel ou bien c'est. Ils n'ont pas de monogramme. Mais non, il ne faut jamais dire ça. C'est au-delà de la raison, mais c'est dans la ligne de la raison, mais au-delà de la raison. La ligne de l'intelligence, pardon, au-delà de la raison. Il y a un basculement au-delà de ce qui nous est coutumier.
Et donc, ils ont des circonstances atteignantes parce que.
Oui.
S'ils font une recherche historique sur César ou Cléopâtre,
oui.
Du fait que.
Ils vont être plus objectifs.
Il va y avoir des forces de résistance, j'allais dire surnaturelles, qui vont être moins fortes pour prouver un fait profane.
C'est pour ça que vous voyez, dans les conversions, je m'occupe un peu des certains musulmans qui veulent devenir chrétiens, qui sont devenus. Et quand on voit le schéma, récemment on avait une réunion, on se coordonne un peu à différents groupes pour s'occuper de ça. Alors le schéma, justement, l'un qui est assez connu, c'est un Irakien qui a fait un bouquin, enfin il l'a écrit en arabe, mais il a été revraité en français. Et alors, il fait des conférences, Joseph Fadel, ça s'appelle Le prix à payer, donc vous connaissez peut-être ça, c'est un très beau livre, je crois qu'il faut le mettre entre beaucoup de mains. Et alors, dans une des conférences, il dit, bon, et c'est vrai que dans son livre, il fait état d'un rêve qu'il a eu. Et alors, quelqu'un dans la conférence lui disait, mais moi j'ai un ami qui a eu un rêve d'une vision qui disait, fais-toi musulman. Et alors, Joseph Fadel a fait répondre, mais c'est pas le rêve qui m'a converti. Le rêve m'a conduit à l'écriture, à la rencontre d'un chrétien, à l'écriture et à l'église. Oui. Donc il y a un ensemble, si vous voulez. La recherche elle-même est un élément, vous voyez, mais qui conduit à un homme général qui nous donne. J'ai également fait un compte rendu dans notre revue, Sedef Tapiensi, vous trouvez la revue sur notre site aussi. J'ai fait un petit compte rendu d'un livre écrit par un évangélique, mais bon, c'est un Égyptien qui s'est converti, qui a été torturé à cause de sa conversion, qui savait le Coran par cœur à 13 ans et demi. Le Coran tout entier. Hein. C'était un champion, si vous voulez. Il serait devenu un des grands maîtres d'Al-Azhar, c'est la grande université, la plus grande autorité sunnite du monde musulman. Et donc, c'est vraiment, il est sorti de là dans des conditions absolument héroïques, avec torture et tout. Hein. Et des miracles pour sortir de la torture, hein, vivant. Bon. Et alors, pourquoi je vous parle de lui? Oui. Parce qu'à un moment donné, ce qui a été l'élément, c'est qu'il a eu des visions, etc. Il a commencé à se rendre qu'il y avait des incohérences dans le Coran, c'était bon. Donc, il a réfléchi, ça, il a commencé à avoir des ennuis. Et à un moment donné, il allait acheter des médicaments chez une pharmacienne qui était copte, enfin, ou évangélique, enfin, qui était chrétienne. Et qui lui a, je sais pas comment elle a compris, il était en route, et qui lui a filé un livre. Il a lu ce livre. Et c'est dans une nuit qu'il s'est converti en lisant les actes des apôtres ou l'évangile. Alors, Fadel, c'est Saint Jean. Et donc, il y a le rêve, le contact avec un homme, et la lecture du livre. Donc, vous voyez, il y a un chemin, mais il n'y a pas un seul élément. Mais il y en a beaucoup qui ont des rêves. Parce que là, je viens de lire la famille chrétienne, elle m'a entendu sur une iranienne qui ne donne pas son nom. Enfin, je l'ai peut-être rencontrée d'ailleurs, mais elle donne ni son nom ni son visage. Et donc, elle aussi, elle a eu un rêve. Pourquoi il y a des rêves? Parce qu'il n'y a pas de missionnaire. Et s'il y en a, ils ne peuvent pas se manifester. Donc comme les Dieu le Christ veut le salut des gens, il peut y avoir des rêves. Mais après, à nous de donner le bouquin et puis surtout à nous aussi de les accueillir quand dans nos familles, enfin quand ici, ceux qui se baptisent par exemple, ils sont excommuniés de leur famille, donc le Noël d'après, il faut qu'ils aillent le fêter chez vous, quoi. Parce que sinon, si vous voulez, ils sortent de la Oumma qui est quand même très chaude, hein. C'est une des raisons pourquoi ils ne sortent pas. Je parle ça, c'est un truc qui me soucie un peu actuellement. Récemment, j'ai un vicaire général d'un diocèse qui nous soutient dans cette affaire-là. Il disait, j'ai été converti dans mon diocèse. Le Noël qui a suivi sa conversion, elle l'a passé toute seule. Parce qu'il a cherché des familles et chacun avait un oncle, le grand-père, le machin. Attendez, il faut accueillir les Arabes convertis, hein, parce qu'ils sont en danger de mort. Et puis après, quelques-uns aussi ils perdent la foi. Parce qu'ils disent, les chrétiens, d'abord, ils ont du mal même à se faire recevoir dans l'église, surtout dans les terrains là-bas, quoi. Parce qu'on dit, oulala, on est menacé de mort si on convertit quelqu'un. Mais chez nous, au moins, on n'a pas encore la charia, du moins visiblement, quoi. Du moins partout, quoi. Donc il s'agit de se bouger pour qu'ils sachent que s'ils partent, ils sont reçus, quoi. Et s'il y en a peu qui partent, actuellement il y en a beaucoup, hein. Moi je travaille avec Mohamed Christophe Bilek qui a écrit un article dans notre revue. Il s'est converti il y a 40 ans, et lui il était une exception, il y en avait. Mais maintenant, c'est des dizaines et des centaines, mais on ne les connaît pas. Parce qu'ils se manifestent peu, et parce que les chrétiens sont trop timides pour leur dire, mais venez, allez-y, vous avez raison de vous convertir. Ben, nous, au lieu de faire dans le dialogue islamo-chrétien, qui aboutit à, souvent à des choses faibles, quoi. Donc il faut aussi, l'élément de la raison est très important. Mais le problème c'est qu'il n'y a jamais, vous voyez, je crois qu'il y a un chemin pour chaque âme. C'est très intéressant l'apologétique, c'est à la fois une instruction et en même temps, sur le terrain il faut improviser, quoi. Parce que, ce que me disait un de mes frères qui a fait un stage BFD là pendant 10 jours, ben, il avait l'impression d'avoir rien dit, en habit bien sûr, mais on est toujours en habit sauf sous la douche, hein, donc, dans la flotte. Les gens qui seront baptisés, mais tous non pratiquants, je crois absolument tous, sauf un prêtre, donc ils pratiquent un peu. Non. Mais ils sont presque tous venus le remercier. Lui, il était étonné du témoignage qu'il avait donné. Il dit, mais j'ai l'impression d'avoir rien dit, quoi. Oui, il n'avait rien dit, mais il a quand même 6 ans de formation derrière et ça rayonne, quoi. Mais sur le coup, on improvise une phrase qui nous semble très inférieure à tout. Et vous, dans votre apostolat, c'est pareil, quoi. Il y a aussi le Saint-Esprit qui nous guide. Quel est le truc qu'il faut. Auquel il faut insister, ou quel est le. Moi je crois qu'il faut chercher les gens qui cherchent.
Ça me met sur le dos.
Il y en a, et bon, quelquefois ils vous tombent dessus, parce que comme vous êtes en habit, mais même si vous avez une croix un peu visible, si vous dites que vous êtes chapelet dans le métro, ou bien si vous êtes marié avec la même femme depuis 35 ans, ce qui est quand même un peu étrange, ou vous avez des enfants, etc. Donc ils viennent, mais comment tu fais? Mais moi c'est des témoignages que je peux donner, que j'ai vécu en 32 ans de sacerdoce, mais beaucoup de choses. Hein. Et donc ça, c'est un enclenche au point de vue apologétique, quoi. Oui. Mais c'est vrai que c'est quand même bon, vous voyez, de... Parce qu'alors, il se disait, du coup, mon frère me disait, mais alors, est-ce que ça donne pas raison à ceux qui disent que c'est pas la peine d'étudier, quoi. Ce qu'il dit, j'ai dit que quelques trucs qui paraissaient tout à fait... Oui, mais la façon dont il les a dit, l'opportunité et tout, il l'aurait sans doute pas dit. Et puis en plus, quand on dit quelque chose, les gens sentent que derrière, il y en a beaucoup plus, oui. Moi, mon prof de karaté disait, pour enseigner les ceintures jaunes, il faut être ceinture noire, quatrième ou cinquième dan, quoi. Enfin, c'est un exemple banal, hein, je ne sais pas, bien sûr, pour les sports qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt l'aïkido ou le jiu-jitsu pour le haut. Mais voilà, il faut en avoir plus parce qu'après, pour le communiquer, vous avez la réserve, donc les choses se présentent. Quoi. Mais c'est cohérent, vous voyez. Et surtout, il faut savoir distinguer les choses. Le scientifique qui cherche la vérité, l'historien, fait un travail naturel, mais il faut prier pour qu'il aboutisse son travail naturel, et qu'au bout, il reçoive, en plus, prier pour qu'il l'aggrave. Oui.
Oui, en fait, l'effet qu'on vient d'aborder, pour répondre aux nouveaux apôtres, aux prédos, je crois que ça correspond aussi en partie... certains textes de l'Ancien Testament. Il y a certains éléments, je pense, en fait, qui ont été annoncés dans les Écritures, en fait.
Oui.
Je voulais effectivement, comme ces phénomènes étaient complètement reconnus, comme vous l'avez démontré, quelle a été la réaction finalement de ceux qui connaissaient l'Écriture.
Ils sont divisés. Il y a un gros problème pour ceux qu'on appelle appelle les juifs, point de vue du peuple, hein, mais les juifs, il y a la religion, il y a le peuple. Et il y a une division. Et actuellement, nous avons une idée un petit peu fausse de ce qu'était le judaïsme à l'époque, parce qu'après les grandes catastrophes de 70 et de 130, il y a une catastrophe sans précédent. C'est comme si vraiment il y avait eu un tsunami mondial pour les juifs. C'est-à-dire que Jérusalem, c'est plus que si Rome et toutes les cathédrales du monde étaient détruites en même temps, toutes les églises. Ça serait beaucoup moins grave que la destruction du temple, beaucoup moins grave. Parce qu'on pourrait dire la messe Bon. Mais pour eux, c'était vrai. Alors, donc, à ce moment-là, il y avait énormément de groupes avec des interprétations différentes. Hein, les Sadducéens qui étaient des minimistes, les Hérodiens qui étaient des collabos, des gens qui étaient très matérialistes, les pharisiens étaient plus spiritualistes, il y avait des anawim. Moi, je crois que le groupe dans lequel le baptiste a vu le jour, c'était des gens qui n'étaient pas du tout esséniens, parce qu'ils n'étaient pas schismatiques, ils étaient au temple, mais ils étaient anawim, c'est-à-dire pauvres de Yahvé, qui admettaient Simeon, Joseph, Marie, etc., une dimension universelle et intérieure du messianisme, parce qu'ils intégraient à la Torah, donc la prédiction du Sauveur, de la Genèse, la dimension de la loi du cœur de Jérémie et la dimension sapientielle des grands livres élaborés avec la sagesse hellénique, etc. Et donc ils étaient un groupe, si vous voulez, qui a fourni une partie des premiers disciples des disciples de Jean-Baptiste et de Jésus. Et alors ensuite il y a une division entre Gamaliel et Hillel en particulier. Gamaliel, enfin le précepteur de Saint Paul, qui était un homme comme ça, très large, très spirituel, laissez-le, jugez ça, c'est fruit de ça. Et Hillel, qui était le meilleur des goïms, il mérite la mort, quoi. Un goïm, c'est celui qui n'est pas juif. Enfin, il était vraiment... il était à fond, hein, dans le mauvais sens. Donc, si vous voulez, toute cette mosaïque-là, c'est... Et il semblerait, alors là, je ne veux pas être une mauvaise... être trop sévère, mais il semblerait qu'il y a eu une sorte de... Après la catastrophe, il y a eu un concile qui a suivi la dernière guerre judaïque en 130, un peu après, où ils ont arrêté le canon des Écritures, et ils semblent à peu près établis que quand même ils sont protégés des chrétiens. C'est que le pharisaïsme pur et anti-chrétien, parce qu'il y a un pharisaïsme, il y avait des pharisiens qui étaient proches de Jésus, a prévalu. Et ils ont donc commencé à mettre un voile, hein, selon le mot de Saint Paul, sur les Écritures, et je suis frappé de voir, ouais, ça je le pensais déjà, mais notre prof d'Écriture sainte, qui est vraiment un spécialiste, qui était à Jérusalem, me disait que ses amis, parce qu'il est très ami avec le rabbin de sa ville et tout, il est gêné par Jérémie, il est gêné par le Kohelet, la sagesse et les prophètes. Il y a même des juifs très cultivés, et qui peuvent être très philosophes par ailleurs, mais qui ne font pas la jonction avec la révélation, parce qu'au fond, ils n'intègrent pas les livres sapientiaux, qui sont des livres assez philosophiques. Donc, si vous voulez, je crois que tout cet éclatement, si vous voulez, d'écoles différentes, a fini par se souder, a trouvé un axe commun dans la Mishnah, le Talmud, avec certains éléments qui leur permettaient de sauvegarder leur foi malgré la destruction du temple, et des éléments très très interprétatifs. Ça, c'est une loi, le judaïsme, hein, plus qu'une, c'est une vérité, mais c'est surtout une loi, mais des éléments orientés vers le refus quand même de la prédication des Nazaréens. Donc ils interprétaient le psaume 15 dans un sens... purement le psaume 15 qui prédit la résurrection d'après Saint Pierre, a un sens différent, etc. Ils ont fait une exégèse à rebours. Et actuellement, il y a un certain mouvement, en Israël en particulier, chez les juifs messianiques, qui admettent qu'au moins que Jésus est le Messie, sans être Dieu, mais le Messie. Donc ça part un peu dans tous les sens. Oui ? Ah, ça c'est la prochaine instruction. On va en parler. Non, j'ai pas pu l'évoquer parce que la matière est très riche. La prochaine, vous allez faire. Enfin, elle est pas encore prête, hein, mais je vais faire une chose pour montrer que le christian, la résurrection du Christ telle qu'elle est présentée par le christianisme n'a aucun équivalent. Et donc, on va parler plus près de ce que c'est et puis des conséquences que ça a pour nous. Bah, corps glorieux, il est. Si vous voulez, il est vraiment un corps, mais bon, il est dans. Il réalise totalement le sens du corps qui est d'être un instrument de l'esprit. Il est encore plus instrument de l'esprit, si vous voulez, que n'est notre corps à nous, qui pourtant nous obéit quand même un petit peu, sauf quand il est malade. Mais là, il est complètement l'instrument de l'esprit, mais il est encore plus vraiment corps. Enfin, on en reviendra là-dessus.
Comment est-ce qu'on peut expliquer que Marie-Madeleine a absolument pas reconnu le Christ?
Ben, c'est justement, ça tient à cette question. C'est que si vous voulez, le corps étant au service de l'esprit, l'esprit domine le message qu'il envoie par le corps. Donc vous actuellement, vous avez des photons qui vous tombent dessus et qui me sont envoyés à moi. Et là, vous êtes plutôt passif par rapport à ces expressions-là, vous voyez. Donc vous ne pouvez pas mais il y a quand même, vous voyez, par exemple, une expression, je vous fais être sur le chemin en disant, tiens, quelquefois vous dites à votre meilleur ami, mais tiens, je te reconnais plus, mais tu n'es plus le même. C'est bien. Mais tu es tout à fait changé, quoi. Soit qu'on est complètement démoralisé alors qu'on avait un moral terrible, soit qu'on a complètement, qu'on m'aime plus, etc. Avant, tu me mets, tu m'aimes plus, je te reconnais plus, moi, etc. Et, ou alors, au contraire, le contraire. Mais quand vous trouvez quelqu'un, après quelque chose qui l'a vraiment bouleversé, j'ai revu un tel, tu sais, et c'est vraiment lui, mais je le reconnaissais pas. Vous voyez, parce que l'état de l'âme envoie quelque chose au travers du corps. Je sais pas si vous voyez la photo de Mère Teresa ou de Charles de Foucault. Il paraît que la photo de Charles de Foucault a converti des hommes. Ah, la photo de Charles de Foucault, quand il sort de Saumur, ben Charles de Foucault, c'est un. Vous avez entendu parler de lui ? Voilà. Donc il est sorti de Saumur, c'était un vrai porc, quoi. Enfin, un porc distingué, aristocratique, mais bon, il est sorti dans les fils, enfin le dernier. Il s'est fait virer de la classe préparatoire où j'étais. Ben, maintenant, on dit que c'est un ancien élève, c'est la femme jeune élève, parce qu'il était, bon, il était bizarre. Et je faisais des tas de trucs. Et alors, il y a une photo de lui, vraiment, porcine, enfin, un aristocrate vraiment hédoniste, et puis la photo de lui au regard. Et là, il y a un message de l'esprit à travers le corps. Donc, si vous voulez, à la résurrection, c'est encore plus. Jésus n'a pas voulu, si vous voulez, il a voulu que Madeleine progresse dans la foi avant de retrouver le contact avec elle. Et c'est d'ailleurs un mot de Jésus, hein, Mariam, qui était donc rapportée en araméen dans le texte. Donc c'est la voix, il a voulu se faire reconnaître par sa vie. Donc c'est, si vous voulez, la matérialité est au service de l'esprit. Mais d'ailleurs, un grand artiste, c'est ce qu'il fait, par une symphonie, il vous fait éprouver des choses spirituelles. Et bien, là, c'est, disons, Jésus est devenu le poète de son propre corps. Enfin, vous pouvez noter ça, d'ailleurs, symboliste. On en reviendra dessus, mais évidemment, on est un domaine un peu... Mais je ne sais pas s'il est arrivé. Est-ce que Frédéric Pichon est parmi nous?
Bon, donc s'il n'y a plus de questions, on va écouter un instant Frédéric Pichon qui va nous parler de l'évangélisation de rue. Donc on l'écoute.